Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste, un comédien, un animateur, un chanteur, un compositeur, un musicien de talent. Je reçois Pierre-Yves Roy. Démarrer, comment ça va?
Ça va toi?
Ça va bien, merci.
Yes.
Merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon podcast.
Et là ça fait plaisir.
Est-ce que toi t'es consommateur de podcasts?
Pas vraiment, j'écoute un podcast de hockey.
Ok.
Chaque semaine.
T'écoutes Dread sur le tape ou...
Ah ben oui, c'est vrai que j'écoute Dread sur le tape des fois.
Ah, t'écoutes un autre podcast
sur... Ouais, c'est un podcast qui suit, parce que Dave, le podcast Dread sur le tape de David Bocage, couvre plus, c'est plus des entrevues sur des gens du milieu du hockey, mais le podcast que je suis, c'est sur l'actualité du hockey et tout ça.
Fait
que,
ok.
Mais j'écoute le podcast de David aussi, bien sûr.
Bien sûr. Le podcast, moi j'ai eu l'occasion de te le proposer quand t'es venu en Belgique, t'es venu jouer en Europe, on s'est vu le 18 janvier à une soirée du What the Fun sur le thème du Seigneur des Anneaux, que toi tu n'avais pas vu.
Non, exact.
J'ai adoré ça. Comment ça s'est passé ton périple en France et en Belgique?
C'était bien. La Belgique, c'était malade. C'était vraiment le fun. En fait, on a fait peut-être 8 shows sur Paris. C'était tout à la même place. T'sais, c'était tout au fridge. Puis on a fait une petite escapade à Bruxelles un soir. On a fait le What the Fun puis un show Kings. Puis c'était les deux shows les plus fun de tout notre passage sur Paris. Fait que tu sais, je peux pas tant évaluer non plus le public parisien parce qu'on a fait juste une place, dans le fond. Mais ça reste que le gros coup de cœur, ça restait Bruxelles.
T'étais déjà venu jouer en Belgique en 2017 avec la semaine québécoise au Kings of Comedy Club, puis en 2019 t'étais venu avec Michel et Sam Boisvert.
Exact.
Est-ce que t'as vu une évolution au niveau du stand-up belge? Maintenant je sais que t'es venu qu'un soir, donc je sais pas si t'as pu le constater, mais...
Non, pas, tu sais, j'ai pas eu un assez gros échantillon, mais... Ce que j'ai remarqué, par contre, la différence, en tout cas, de mon appréciation personnelle au niveau des humoristes belges, le petit échantillon que j'ai vu, puis les humoristes français, il y a plus de variété, je dirais, dans les humoristes belges, même plus de diversité. Tu sais, je pense que on a croisé le pourcentage d'humoristes femmes qu'on a croisées sur Paris est vraiment bas, comparativement à... Je pense qu'on a vu plus d'humoristes femmes en une soirée à Bruxelles que toute la semaine à
Paris. Bon point pour nous.
Paris. Cool. Mais puis juste dans les styles d'humour, tu sais, et puis c'est encore une fois, on n'a pas été... Quand j'étais venu en 2019 à Paris, on a fait plein de plateaux, on a fait toutes sortes de setups là, différents, sur une péniche, dans un deuxième étage de restaurant, puis ça, puis des bars, évidemment. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y avait vraiment c'est très homogène, tu sais, dans l'approche stand-up, la confiance en soi, les thématiques. Ils ont comme, tout le monde a un peu la même dégage, la même énergie, grosso modo. Je trouve que les Belges, c'est plus, il y a plus d'absurde, il y a plus d'autodérision, il y a un deuxième niveau qu'on a au Québec qui, je sais pas si t'es un peu familier avec l'œuvre de Claude Meunier.
Un peu.
Il y a beaucoup dans ce que Claude Meunier fait de dire quelque chose de volontairement insignifiant. Puis c'est ça la joke. T'sais, je suis très conscient de ce que je suis en train de dire. Ça vaut rien. Puis c'est ça qui est drôle. Mais puis ça, en Belgique, il a ce niveau-là de on fait confiance à l'intelligence du public, on va dire quelque chose qu'on sait très bien que je le sais pertinemment que ça c'est insignifiant ou c'est stupide ou tu sais tout ça. Puis en tout cas de mon expérience à moi à Paris, quand tu fais ce genre de joke là, ils font mais il est bien calme, il est bien insignifiant, tu sais comme ils comprennent pas le non mais je le sais que ce que je dis
oui, c'est sous-texte.
Fait que ce côté là, cette branche là comme absurde, pis ce petit côté là clin d'œil, faire confiance au public de je le sais, on est in on it que je joue au cave en ce moment. Il y a ça aussi dans
il y a plus d'autodérision de ouais. On sait que ce qu'on dit est cave, c'est voulu.
Oui, exactement.
Tout ce qu'on a dit, c'est prévu. On l'a prévu.
Mais exact. Mais, fait, en tout cas, c'est de ma courte expérience, c'est ce que j'ai semblé noter. Là.
Ben, moi, je suis content. C'est des points positifs pour la Belgique, même si, comme tu le dis, c'est sur un petit échantillon, mais c'est du positif. Déjà, plus de diversité, plus de styles différents. C'est assez cool pour la Belgique. Moi, je suis.
Ouais. Ben, et puis, je trouve que c'est ce qui. Ça ressemble. Tu sais, c'est peut-être pour ça que j'aime mieux ça aussi, là, c'est que ça ressemble plus à ce qu'on propose ici, j'ai l'impression, au Québec.
Ben, moi, j'adore l'humour québécois, donc je pense qu'il y a des similarités.
Ouais, clairement.
Je pense qu'on a ce côté absurde, on a le côté dérision, ça, c'est clair. Mais. C'est même fort en Belgique de se moquer de nous parce qu'on est un petit pays donc on sait. Oh,
ouais, ben pas, écoute.
Jamais quelqu'un a dit de la Belgique, lui il est prétentieux. C'est vraiment. Mais c'est d'ailleurs le truc qui passera pas. Un humoriste qui est, tu vois, qui est trop prétentieux, c'est mort. C'est mort pour lui. Ouais. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on a en commun, mais je sais pas si en France aussi. Ben en France c'est peut-être plus. Parce que j'ai un mauvais avis sur les Français aussi. Ah non, mais sur Paris peut-être plus, je sais pas.
Ben c'est en tout cas moi ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup de fausse confiance aussi, tu sais. Ça passe beaucoup par ça, par de la prétention d'arriver sur scène puis de dire genre hey, moi on va vous dire comment ça marche, tu sais. Il y a cette attitude là qui est très fréquente, puis contrairement à ce à quoi je me serais attendu, le public se referme pas à ces affaires là, tu sais, sont pas comme on le voit le petit jeu que tu joues, non, ils embarquent, alors qu'au Québec j'ai l'impression que ça marcherait pas tant, puis j'ai pas l'impression qu'en Belgique non plus.
Mais du coup moi c'était la deuxième fois que je te voyais live. La première fois c'était à l'Olympia de Montréal pour ton spectacle. Donc ton spectacle s'appelle Joke, Chapeau, Magie, Maman, Piano. Meilleur titre de spectacle de l'histoire. C'était le jour de la captation du spectacle, je pense.
Ouais. Exact.
Mais moi j'ai adoré le spectacle.
Ah, c'est gentil.
Bah, sinon tu serais pas là. J'ai franchement rarement autant ri à un show d'humour. Je crois que j'ai publié sur Insta, genre c'est le show le plus niaiseux que j'ai vu. Dans un côté très positif.
Ouais.
C'est con, mais volontairement. Tu annonces qu'il y a 312 blagues dans le show. Moi, je ris aux 312.
Ah, yes,
clairement, je suis public cible à fond. Comment ça s'est passé pour toi la captation? C'est un stress supplémentaire la captation? Est-ce que tu te rappelles de cette soirée-là en particulier ou...
On a fait deux soirs, on a fait le 18-19. Fait que je me rappelle, déjà il y a eu une différence entre les deux, tu sais, le 18, les 20 premières minutes, j'étais super nerveux, j'étais dans ma tête, j'étais pas dans le show. Puis la deuxième moitié, je me suis mis à improviser des affaires, tu sais, je me suis vraiment laissé aller en me disant, tu sais, même si ça chie à soir, c'est pas grave, je le refilme demain, tu sais. Mais je mettais beaucoup d'attentes sur ces soirées-là, la captation, parce que, en fait, je me suis rendu compte que, quand j'ai fait la première du show, tu sais, on fait toujours une première au Québec, là,
une première médiatique,
là, le spectacle est officiellement lancé, là, les médias sont là, puis tes collègues humoristes sont là, puis ça. Je mettais beaucoup de pression par rapport à cette soirée-là, tu sais, je voulais que le show soit parfait, je voulais que ça se passe bien, puis ça. Puis c'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte que j'étais comme libéré d'un
poids.
Ouais, parce que chaque soir, en fait, je me rendais compte que sur scène, je projetais sur le public le public de la première. En fait, je m'imaginais qu'il était le public de la première.
C'est ça.
Je me disais, je veux qu'il réagisse comme ça à la première. Fait
que... Ça, pour la première, il faut que ça se passe aussi bien. Ça, il faudrait que je fasse ça à la première.
Il faut que je joue de même, parce que là, ça arrive. Puis, les 15 shows après la première, j'étais libre là, de cette affaire-là. Tu sais, c'était fini. Puis après ça, ben, tranquillement, ça a été remplacé par la captation. Tu sais, toute la tournée, ça a été, ah ouais, je vais le dire de même à la captation. Tu sais. Ce qui a fait que j'avais beaucoup d'attentes face à la captation, parce que la première, ça a été formidable. C'est une des plus belles soirées de ma vie. C'était extraordinaire. C'était un des shows les plus électriques, là, vraiment. Puis la captation, je me suis dit, c'est le même, ça va être parfait, tu sais. Mais là, on est rendu vraiment plus loin dans la tournée à ce moment-là. Il y a beaucoup de monde qui sont venus au show. Fait que là, il y a un petit peu plus de curieux aussi qui viennent. La première, c'est en plein milieu de la semaine. Là, on est de la fin de semaine, fait que c'est un petit peu plus party. Il y a eu beaucoup de moments où le public crie des affaires. Fait que le show, c'est pas passé aussi rondement que dans mes rêves les plus fous, mais j'ai appris une belle leçon de cette affaire-là, de juste... de pas mettre toute la pression du monde sur cette soirée-là parce que ce sera jamais parfait. Puis c'est correct de même, tu sais, dans le fond. Okay. Puis aussi, c'était autoproduit, tu sais. Le show, la plupart des gens, la plupart des humoristes vendent le show à une chaîne de télé ou un diffuseur quelconque, puis eux, ben, financent la captation pis tout ça. Mais moi, je veux le mettre directement sur YouTube. Fait que c'est okay. notre argent qu'on sortait pour faire qu'il y avait comme une pression de plus de faut que ce soit parfait parce que c'est mon c'est cash qui s'en va là-dedans. Okay. Mais ça a bien été, somme toute, ça a bien été. C'était une chose super cool.
Oui.
Là, ouais, c'était vraiment le fun. Fait que je suis content. Puis les deux soirs, tu sais, il y a eu des moments funky, là, des interactions. Tu sais, je pense que tout était le 19, fait qu'il y a probablement la madame qui était partie fumer puis qui est revenue. Puis
oui.
En fait, je disais qu'elle était partie aux toilettes, là, puis là, je faisais des jokes de... Elle a manqué un bout parce qu'elle faisait caca, là, tu sais. Je ramenais ça, puis ça sonne très bébé parce que ça l'est, mais c'est le fun parce que tu peux te permettre de le mettre ou pas dans la captation, mm-hmm. tu fais deux soirs, là, tu sais.
OK. Mais d'ailleurs, comment ça se passe maintenant? T'as fait la captation, est-ce que c'est toi qui vas t'occuper du montage? Est-ce que t'es déjà occupé
non.
à ça?
Non, j'ai engagé un réalisateur qui est engagé, qui, ben, on a engagé le monteur aussi, mais qui était référé évidemment par le réalisateur. Fait que je fais partie évidemment du processus, là, tu sais. Je vais faire un visionnement bientôt, donner mes petits commentaires, pis tout ça. Au début, je voulais le faire, le montage. En fait, j'ai ces capacités-là, sauf que c'est énormément de temps. Puis, c'est un peu aliénant, tu sais. Fait que j'aime vraiment mieux que quelqu'un s'en occupe, puis rentrer dans le processus une fois que c'est déjà entamé, là, tu sais.
OK. Parce que j'avais entendu que t'en avais parlé avec Jay Dutombe, que tu voulais que ça donne l'expérience du show et en même temps que c'est une plus-value pour...
Ouais, ouais, parce qu'on a tourné... Ah, c'est ça, parce que le lendemain, en fait, le 20, le dimanche, toi, t'es venu le samedi. Le dimanche, on a fait une journée de tournage complète. Pas de public, fait qu'on avait la salle de spectacle, okay. les réalisateurs pis ça, pis on filmait des affaires, pas de public, pour avoir des shots de caméra que tu peux pas avoir quand il y a du public. Okay. Qu'on a refait les tunes, on a refait des moments, le tour de magie, on a tout refait ça, pas de public pour avoir des shots différents.
Oh, c'était dur ça faire, de refaire sans public.
Ben.
Après, oui, tu t'es connu pour faire des spectacles sans public.
On y reviendra. Oui. Mais, non, mais, en fait, c'était juste pour visuellement ajouter à ça. Tu sais, les bouts de stand-up, on les a pas refaites, là, tu sais.
Non, mais même le refaire sans public, c'est un peu comme quand tu dois faire un test son avant le spectacle.
Exact. Ah, non, t'as raison.
Je déteste ça.
Tu sais, zéro la même énergie pis ouais. ça, mais, tu sais, pour l'intro, tu sais, qui est un concept, tu sais, quand tu viens voir le show, ben, j'adapte ce concept-là au public à la maison. Fait que je leur parle directement à la caméra. Fait que pour le faire, fallait le faire pas de public pour que la caméra soit sur le stage pis qu'un peu pis ça. Fait qu'on a fait ça.
Ok. Ouais. C'est trop cool. Bien de le mettre sur YouTube, déjà.
Ouais.
Moi, je suis fan de captation, donc plus je peux en consommer, plus je suis content, donc si c'est sur YouTube.
Ben, pareillement, moi, j'ai découvert toutes mes humoristes préférés sur Internet, fait que je voulais que ce soit sur Internet, puis je veux pouvoir le découper en clip aussi, tu sais, c'est comme essentiel à ce temps-là.
Pouvoir les échanger, les partager sur les réseaux sociaux,
tout ça. Exact. Ouais. Quand c'est entre les mains d'un diffuseur, ben souvent, tu peux pas faire ça.
Petite particularité dans ton show, il y avait des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent te voir dans ton show.
Ouais.
Je pense que le soir où j'étais sur place, il y avait un enfant de 10 ans, après tu disais, c'est qui le plus jeune? On est arrivé jusqu'à 7 ans.
Ouais.
Comment tu deals avec ça? Moi, enfin, je vois dans le show comment tu le fais, je trouve ça très drôle. Mais est-ce que c'est un stress supplémentaire? C'est quelque chose auquel tu penses? Est-ce que c'est une habitude ou c'était vraiment ce show-là où il y avait beaucoup d'enfants?
Il y a souvent à peu près cette quantité-là d'enfants. Okay. C'est rare que ça descende aussi bas que 7 ans. Mais non, en fait, moi, je me dis, parce que, en fait, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que mon enfant est trop jeune pour que je l'amène? Puis je réponds pas.
Okay.
C'est parce qu'avant, j'avais une réponse automatique de ça dépend d'une personne à l'autre. Nan, nan, nan. Mais je me dis, si je réponds pas, ben ils prennent la décision 100% par eux-mêmes, dans le fond, tu sais. Fait que s'ils trouvent que j'ai été trop loin ou qu'ils n'auraient pas dû amener l'enfant, ben c'est 100% de leur faute, tu sais. Mais c'était ça avant aussi, tu sais. Moi, j'ai été voir des shows. Ma mère m'a amené voir des shows quand j'avais 9-10 ans, puis elle pouvait pas parler directement à l'artiste pour lui demander si tu correct que j'amène mon enfant. Fait que je me dis,
elle pouvait envoyer un courrier et attendre une réponse.
C'est ça. Fait que je me dis, elle prenait cette décision-là par elle-même puis elle assumait les conséquences. Fait que c'est ça que je fais, dans le fond. Puis ça fait en sorte que les enfants qui sont là, ben, c'est des parents qui sont comme, je suis pleinement conscient de ce dans quoi j'embarque mon enfant. Okay. Fait que c'est toujours le fun, en fait. J'ai jamais vraiment eu de mauvaises expériences avec ça.
Ça marche.
Ouais.
Moi, le seul défaut que je trouve à ce show-là, c'est qu'il est super dur à décrire. Moi, je le recommande à tout le monde, mais quand j'en parle, je fais « pourquoi il est si bien ?» Je fais « il fait des trucs avec, avec une gourde et c'est le pire truc à dire pour venir voir le spectacle. » Et là, du coup, je n'explique pas, tu vois, je dis « non, il faut le voir, c'est fou, c'est niaiseux, mais comment tu décris le contenu du spectacle qui se passe dedans. C'est, je trouve qu'il est assez dur à décrire. Il est génial, hein. Allez le voir. Il est en tournée. Je mettrai les liens vers la tournée, vers les dates et tout ça. Mais c'est dur à décrire. Comment toi tu décrirais le spectacle?
Moi, je dis que c'est des jokes, un chapeau, de la maman, il y a de la magie puis un piano. C'est, si je m'en tiens à ça, c'est vraiment ça que c'est dans le fond. Mm. Tu sais, quand tu repenses, c'est ça qui, c'est que le show est le résultat de, je sais pas, 5 ans d'écriture de bits, tu sais, que j'ai collé ensemble. Puis après ça, j'ai regardé ça, j'ai fait « Bon, ben, qu'est-ce que ça raconte, dans le fond? » Ben, c'est des jokes, tu sais. C'est juste des jokes. Fait que j'ai été avec un chiffre approximatif, je dis « Il y en a 312. » Puis c'est, ils viennent sous toutes sortes de formes, tu sais. Sous une forme d'un tour de magie, de chansons, de bout de plus sketch, de bout de où je bois de l'eau. Fait que, bout où je dis rien, puis je porte un chapeau. Fait que, je me suis dit que je peux pas décrire ce show-là avec un titre qui résume l'essence du spectacle. Mm-hmm. C'est plein d'affaires. Fait que c'est des jokes, il y a un chapeau, il y en a... Fait que, comme ça que je l'écris.
Donc, très bon choix de titre. Ouais. Et mieux que le titre précédent qui était Pierre-Yvroy Desmarais, présente Pierre-Yvroy Desmarais.
Par
Pierre-Yvroy Desmarais.
Ben, ça n'a jamais été ça le titre, mais c'était, c'était une option. Ouais.
Voilà, c'était la petite partie pour que je montre que j'ai fait mes recherches.
Ouais, très fort.
Mais donc, tu es en tournée avec ce show à travers le Québec. Comme je l'ai dit, je mettrai les liens vers les dates. Tu clôtures la tournée avec un show au Centre Bell, mm-hmm. le 27 juillet, avec le show qui s'appelle La meilleure joke. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le show sans vendre la dernière joke, je suppose.
Ouais.
Et est-ce que ça te met pas une pression de dingue que le public s'attende à la meilleure joke?
Oui, c'est ça que je trouve parfait. En fait, ben, le show tel qu'il est là, en fait, c'est. En fait, le show du Sambé, c'est tel qu'il est en ce moment, mm-hmm. avec une demi-heure de plus de matériel mm-hmm. sur lequel je travaille à l'heure où on se parle. Puis avec un band sur le stage. Puis le but, c'est de bonifier l'expérience. Fait que c'est tous les moments, là, tu sais, par exemple, si je te dis la joke où il y a du feu, ben là, je peux aller plus loin que juste du feu, là, tu sais, je peux me battre avec quelqu'un sur le stage, casser des instruments de musique, tu sais, vraiment tout augmenter l'expérience à 100%, à son plein potentiel, parce que le show tel que je le fais là, je le fais comme si j'étais au Centre Bell quand je joue à Granby, tu sais, fait que le but, c'est de d'y donner la chance de déployer ses ailes.
Okay.
Fait que c'est le show tel qu'il est là, mais l'évolution Pokémon du show. C'est le même show, mais soudainement, c'est Charizard. Tu sais, tu vois ce que je veux dire?
Dracaufeu.
Pour les
Français et les Belges. Non, j'adapte. Ouais, j'espère qu'il y aura des Québécois et des Français qui m'écoutent, et des Belges, des Suisses. Ouais. Et plein d'autres nationalités. Pourquoi je freine?
Mais non,
possibilité. Mais du coup, est-ce que tu regardes, genre, les réservations tout le temps pour le Centre Bell pour voir si ça se remplit?
Oui, absolument. Ben oui, tu veux savoir si ça se passe bien ou pas. Tu sais, puis là, ça se passe bien.
Ça se remplit.
Ouais.
Ok. Mais tu prévois combien de places pour le moment? Est-ce que tu vas agrandir au fur et à mesure en fonction de.
Ça dépend de. Ouais, ben, on a des options, là. Tu sais, pour l'instant, on est ouvert à 8000 billets. Mm-hmm. On a franchi la moitié, là, puis souvent, en fait, plus que la moitié des billets sont achetés dans les 3 semaines avant.
Mm-hmm.
Fait que si jamais ça se remplit, puis on est encore une semaine d'avance, puis on a le temps, on peut rajouter des sections en haut. Okay, en fait. Ouais. Parce qu'on est déjà dans. L'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le stage. T'sais, c'est vraiment, faut s'imaginer la patinoire. Ouais, là, t'sais, fait que le stage.
Je suis allé voir un match des Canadiens il y a 2 semaines.
Ah, ben c'est toi. Ben, ils mettent le stage à la première ligne bleue, mettons.
Okay.
Fait que le parterre est petit, puis il monte en haut. Puis plus il y a de monde qui s'ajoute, ben là, plus il recule le stage vers la ligne rouge, puis l'autre ligne bleue. Mais nous autres, on a déjà parti à l'autre ligne bleue, fait qu'on a fait un long parterre, puis on a juste ouvert la première section en bas, les rouges.
Okay.
Mais si jamais on veut en racheter, ben on peut racheter les blancs. Puis...
Okay. Ben, j'espère qu'après la sortie de cet épisode, il y aura un petit pic.
Ouais, ça serait malade.
Si vous prenez une place pour le spectacle après avoir écouté le podcast, envoyez-moi une photo.
Ouais, c'est
j'aime
bon,
bien.
C'est...
Et on a déjà plusieurs auditeurs qui m'ont envoyé les billets des spectacles des humoristes qu'ils allaient voir après avoir écouté l'épisode.
Nice.
C'est parfait. C'est juste ce que je voulais avec
très
ce podcast.
Bon.
Le 19 mars prochain a lieu la cérémonie des Oliviers, donc un peu les Oscars de l'humour pour les Européens qui nous écoutent.
Moins prestigieux, mais ouais.
Ouais, c'est quand même prestigieux. Moi, je trouve ça trop stylé déjà qu'il y ait une cérémonie pour l'humour.
Ouais.
Ça montre l'importance de l'humour qu'il y a au Québec, parce que nous, il y aurait une cérémonie de l'humour, il y aurait moi qui le regarderais.
Ouais, je comprends.
Les humoristes, c'est tout.
Ouais. C'est vrai qu'on est chanceux pour ça, vraiment.
Et toi, t'es nommé dans pas mal de catégories. Olivier de l'année, spectacle d'humour de l'année, auteur de spectacle d'humour de l'année, numéro de l'année pour ton sketch sans montage. Et la série complètement lycée dans laquelle tu joues un des rôles principaux est nommée elle aussi dans la catégorie série web humoristique de l'année. Ouais. Déjà bravo.
Ben, merci, merci beaucoup.
Et qu'est-ce que ça te fait d'être nommé autant de fois?
Ça fait chier. Non, c'est super. Tu fais pas ça pour ça. Tu fais ça, mais c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Je sais pas quoi dire d'autre que c'est le fun.
C'est le fun. Et quel est ton pronostic? Tu penses repartir avec combien de trophées?
T'as peur, j'ai jamais pensé. Honnêtement, j'essaie de pas penser à cette affaire-là. Fait okay, que, mais je peux te dire que je serais vraiment heureux. En fait, tu sais, mon show, il y a des catégories où c'est pas moi qui est nommé, c'est mon show. En fait, mon metteur en scène est en nomination, puis mon concepteur visuel est en nomination. Si eux gagnent, je vais être vraiment content parce que, tu sais, moi, je le vis déjà, la récompense de ce show-là, tu sais. C'est plein tout le temps. C'est des soirées magiques. Les gens sont vraiment fins. C'est comme, ça se passe vraiment bien. Je suis déjà, on va atteindre 250 représentations de ce show-là, tu sais. Puis, je vais arrêter parce que je veux pas m'éterniser, tu sais. Pas parce que y a plus personne qui veut venir le voir. Fait que je suis déjà super chanceux. C'est vraiment déjà super cool. Fait que si les gens qui ont travaillé avec moi pis qui peuvent pas vivre cette magie-là sur scène, comme moi je la vis, pis ils peuvent être récompensés un peu, mais je vais être vraiment content, t'sais. Fait que j'aimerais vraiment ça que mise en scène, conception visuelle gagne. Écoute, auteur aussi, t'sais, parce que je partage avec Alex Forêt pis David Bocage. Ça serait le fun, mais je me fais vraiment pas d'attente parce qu'il y a des shows vraiment mieux écrits que ça qui sont en nomination.
Ok. Ça marche. Ouais. Et au niveau de ton actualité, ben, je l'ai mentionné, tu joues un des rôles principaux dans la série Complètement Lycée, ouais, qui est diffusée sur Nouveau.ca. Tu joues le rôle de Brian Manson, le fils du coach et sportif de l'école au QI un peu limité. Pour resituer la série, c'est une parodie des séries américaines pour ados. Elle est tournée d'abord en anglais, puis redoublée en français. La série, elle est vraiment hilarante. C'est vraiment très, très drôle.
Merci.
J'adore dans la saison 1, quand tu prends de la stéroïde.
Ouais.
Je pleure. tout bonnement. C'est un concept qui vient au départ d'un spectacle que tu faisais avec Rosalie Vaillancourt.
Exact.
En 2017.
Ouais.
Et donc, qui a été réadapté pour la série avec
C'est un sketch dans le show. C'était comme le sketch d'ouverture du show qui était déjà filmé. Justement, fait que c'était un sketch qui durait 5 minutes. Là, je faisais encore une fois le joueur de football épais qui était jumelé pour faire un devoir avec la petite fille nerd qui, quand elle enlève ses lunettes, soudainement elle devient super belle. Fait que c'était ça le sketch. Puis on a été approché par des producteurs pour essayer d'en faire une adaptation télé en fait.
Ouais. Okay. Comment c'est de jouer dans cette série?
Ben, c'est un rêve, là, c'est malade, tu sais, on rit comme des fous, on tourne en anglais, c'est super stupide, là, tu sais.
Avec Rosalie Vaillancourt qui ne parle pas anglais.
Exact, fait que c'est vraiment magique, là, en fait. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est de voir qu'on avait tourné ce sketch-là avec Alec Pronovost, qui réalise la série. Il avait réalisé le sketch, c'est lui qui réalise ma captation aussi, d'ailleurs.
Okay.
Puis là, de voir qu'on est la même petite gang, mais soudainement, avec un budget de télé, des comédiens professionnels, tu sais, c'est comme ça devient vraiment big. Fait que c'est super le fun. Pour vrai, c'est un gros trip, là.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dont j'aurais pas connaissance?
Dans ce style. Ok, tu veux dire, ouais, à l'heure où on se parle, non, c'est pas mal ça.
Ok.
Non, ouais.
En masse. Je suis au courant de tout, parfait.
Ouais, très fort.
Est-ce que tu commences déjà à penser à ton prochain show? Est-ce que ça s'approche la fin de celui-ci? Est-ce que t'as déjà le deuxième en tête ou tu essaies pareil, non, ben, pas trop y penser?
Non, ben, je laisse les choses venir naturellement, tu sais. En ce moment, justement, j'écris des jokes pour les injecter dans la version bonifiée du show tel qu'il est là pour le Centre Bell. Mais il n'y a rien qui dit que ce sera pas la demi-heure sur laquelle je vais construire le prochain show, tu sais, je sais pas. Je sais un peu ce à quoi j'aspire pour le prochain show, tu sais, en termes de structure, ou tu sais, en tout cas de contenant, d'approche. Je sais c'est quoi l'approche que je veux avoir pour le prochain show, mais je sais pas à quoi ça va ressembler pour l'instant.
Ok. Et est-ce que ça te stresse plus que pour le premier show, maintenant qu'il y a un peu plus d'attente?
Non, pas du tout. Je me trouve meilleur que jamais, tu sais. J'ai l'impression que je m'améliore, puis c'est ça qui me satisfait, en fait, là. C'est vraiment ça, ma motivation. Le nouveau matériel que j'écris, je l'adore. C'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est mes nouveaux jouets, là, tu sais. Fait que je suis vraiment content quand je vais le faire. Je l'essaye au bordel, puis tout ça. Puis après ça, quand je retourne à mon show, je suis heureux de faire mon show. Puis je le sens que je suis rendu je suis mûr pour la prochaine étape. Je t'avoue que j'y pensais déjà dès le début du show, tu sais, quand on a fait la première, j'étais comme, OK, là, c'est fait, là, c'est vraiment un poids qui s'enlève, que ça devenait vertigineux, ben, j'étais comme, je sais pas quoi faire pour la prochaine étape, mais c'est sûr, là, c'est niaiseux, tu viens, t'es encore dans cette étape-là. Fait là, je vois la fin. Fait que je le sens que j'ai mûri, que je me trouve moi meilleur sur scène. Ce que j'écris, ça me ressemble plus, c'est plus ce que je veux faire. Fait que le prochain show, je sais pas si je veux qu'il soit de la même envergure, tu sais. Je sais pas si j'ai aucune idée. Je veux juste qu'il soit bon puis qu'il soit à la hauteur du progrès que je fais en ce moment.
Ça m'arrangerait que tu viennes le jouer en Europe, celui-là.
Ouais, j'aimerais ça.
Parce que là, je suis dû venir jusqu'au Québec pour pouvoir avoir des spectacles d'humour. Je peux pas le faire ça. Tous les ans.
Ça me ferait plaisir. Mais j'aimerais ça. Tu sais, pour vrai, juste quand je suis allé au Kings, tu sais, comme ça peut être cool, tu sais, faire trois soirs le même. Là, c'est comme un format vraiment le fun, le Kings. Tu sais, fait que un jour, peut-être, moi, ça.
Ben, je te le souhaite.
Ouais, c'est gentil.
Et maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, dans le podcast. Moi, j'aime remonter le temps, revenir sur tout ton parcours au complet. Je vais essayer de le faire autant que possible. Mais donc, t'es né le 23 septembre 1994. J'essaie d'adapter 1994 pour la Belgique. Tu es né à Laval. Tu as grandi à Lachenay, qui fait partie de la ville de Terrebonne, dans la banlieue nord de Montréal. Merci, Wikipédia. À 2 ans et demi, tu changeais déjà les paroles de Au clair de la lune pour faire rire tes parents.
Oui.
Ta sœur te déguisait et tu faisais des petits spectacles. Donc, je me doute de la réponse, mais est-ce que enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle et est-ce que tu l'étais autant à la maison qu'à l'école ou quand tu allais jouer au hockey?
Oui. Oh oui, tu sais, j'aimais ça faire rire, là, tu sais, c'était vraiment ça. Mes parents étaient des fans d'humour, justement, de Claude Meunier, notamment. Fait que je les voyais écouter la télé, puis rire, puis ça, puis je voulais faire... On est des rieurs, là, je pense, fait que j'avais le goût de les faire rire. Puis à l'école aussi, au primaire, dans mes équipes de hockey, j'étais le clown au début, là, je te dirais. À l'adolescence, c'était moins ça, là. J'étais un petit peu plus réservé, mais je faisais quand même tout ce qui est secondaire en spectacle, tu sais, les shows parascolaires, là, tu sais, tout ça. Ce genre d'affaires-là, j'étais impliqué là-dedans, mais j'étais moins le clown de la classe, comme on dit.
J'ai entendu aussi que tu aimais faire rire les adultes. Encore plus que tes camarades, je veux dire. Faire rire un adulte, c'était un peu un truc encore en plus.
Mais c'était vraiment un mystère aussi pour moi, tu sais. En ce moment, tu sais, moi j'ai un neveu qui a 5 ans, puis je me reconnais tellement en lui, tu sais, il veut tout le temps faire, il veut tout le temps niaiser, faire rire. Puis c'est, tu le vois quand c'est pas ce qu'il pensait qu'il allait faire rire, qu'il fait rire. Puis je suis comme, je sais tellement comment il sent, je me sentais exactement pareil, de pourquoi faut rire à ça, mais pas à ça. Fait que ça a toujours fait partie de ma psyché.
Ok. Mais tu l'as dit, tes parents tripent sur l'humour, ils aiment regarder ça, mais est-ce que eux-mêmes sont des gens drôles?
Oui, oui. Ma mère est drôle du type extraverti, plus des fois drôle sans faire exprès. Mm-hmm. Mon père est plus pince sans rire. Justement, meunier, ce genre d'affaires-là, ouais.
OK. Ton grand frère, ta grande sœur aussi, ils ont...
Ah ouais, vraiment drôle. Ah ouais, mon frère, en fait, c'est lui qui m'a initié à plein d'humoristes, les Chicken Swell, les Denis Drolet, tout ce qui est musique humoristique aussi, m'a introduit à ça. Mon frère, il faisait des sketchs, il filmait des sketchs, en fait, là. Puis il me faisait jouer dedans. Fait que mon frère créait de l'humour, tu sais. Puis ma sœur, elle a une excellence dans l'humour. C'est vraiment drôle aussi.
OK. Ouais. Donc, vous regardiez beaucoup d'humoristes à la télévision, mais est-ce que vous alliez aussi voir des shows d'humour?
C'était ouais. Oh, ouais. Mais tu sais, pas énormément, mais tu sais, je me souviens d'aller voir Louis-José Hood, Stéphane Fallu. T'as pas un lien particulier avec Stéphane Fallu? C'est pas lui qui t'a initié à l'humour.
C'est lui qui m'a initié à l'humour québécois. Tu vois, discuté avec David.
Ouais, exact. Mais tu sais, je me rappelle être allé voir plusieurs shows quand j'étais jeune. Eux, ils allaient voir, ils me rappellent quand ils étaient allés voir François Morancy, des noms de même. Tu sais, ils allaient quand même, c'est Patrick Huard et tout ça. Fait que, ouais, il en consommait.
OK. Et dans ton gala Comédia, tu dis que ton sketch préféré, c'était un sketch de Lise Dion avec le piano bar.
Ouais.
Pourquoi ce sketch-là en particulier?
Je sais pas pourquoi, mais elle fait des faces drôles. Lise, elle a un timing comique écœurant. Elle fait des... c'est vraiment sa face. T'sais, quand je repense à ces numéros-là, je comprenais pas toutes les jokes. Là. T'sais, c'est des jokes de... était trop saoul pour conduire, puis tu sais, des affaires là-même, quand t'as 8 ans, tu comprends pas ça, mais les faces qu'elle faisait, ça me faisait extrêmement rire, fait que, ouais, j'aimais vraiment ça, tu sais, elle bitchait dans le dos de son mari, là, tu sais, elle chialait toutes sortes d'affaires, puis elle était saoul, puis je comprenais pas toutes les jokes, mais Je me souviens que son jeu physique me faisait vraiment rire.
Et alors, dans le podcast, moi, j'ai interviewé 72 humoristes, des Québécois, des Suisses, des Français, des Belges. Mais tu es le seul, et je te dis bien le seul, dont les parents le poussaient à faire de l'humour, l'encourageaient à faire.
Ouais.
Comment est-ce qu'ils t'encourageaient? Et est-ce qu'ils auraient été déçus si, au final, tu n'avais fini que par être chirurgien dentaire ou...
Oui, écoute, c'est très strict. Hein. Si je ne devenais pas humoriste, là, ça se passait mal. Non, écoute, ils m'ont... toujours poussé là-dedans parce qu'il savait qu'il y avait un potentiel. Puis tu sais, je pense qu'il était conscient aussi que c'est une route pas ordinaire. Puis que s'il me poussait pas, ben, s'il me supportait pas, ça aurait peut-être pas été aussi facile. Tu sais, fait que je pense qu'il était conscient de ça. Puis c'est eux, ben jeunes. Tu sais, tout le monde en parle. Louise Richer, qui va la directrice de l'école de l'humour, qui va là, puis il était comme, hey, tu sais, ça pourrait être intéressant pour toi, tu sais, ça. Puis quand je voulais faire de la musique, tu sais, c'est drôle parce que je me souviens que mes parents étaient comme, OK. Tu sais, je voulais étudier en musique, t'es comme, OK. Puis quand je leur ai dit que je voulais aller faire l'école de l'humour, ils étaient comme, ben oui.
On le savait.
Ouais, fait qu'ils m'ont jamais découragé à faire autre chose, mais je le sais qu'ils étaient un peu surpris quand je pensais considérer d'autres options, tu sais.
OK. Ouais. Mais c'est vraiment marrant parce que je te promets, tu es le premier.
Ah, je sais.
C'est assez fou. Généralement, on essaie de dissuader.
Complètement. C'est une mauvaise nouvelle, d'habitude, quand tu dis à tes parents que tu veux faire de l'humour.
Mais qu'est-ce que tu vas faire pour payer tes factures?
Ouais, exact. Ouais, puis ça. Eux, ils ont, ben, tu vois, ils m'ont transmis une confiance, là, évidemment. Ouais. Tu sais, quand tes parents disent, ben oui, c'est là-dedans qu'on te voit, ben c'est sûr que ça aide, tu sais.
OK. Parce que moi, mes parents m'encouragent. Mais ils m'encouragent surtout à avoir un
mettre
travail...
de l'argent de côté.
Voilà. Et après, tu ferais ce que tu veux.
Tu feras tes petites blagues c'est un ça. Peu, une fois par semaine. C'est grave, ouais, je comprends.
Mais ça peut marcher. Mais ça serait bien que tu payes les factures d'abord.
Mais c'est... Puis je comprends, là, tu sais, je comprends ce thinking-là, mais je suis persuadé que tu peux pas, comme dans n'importe quoi, ça peut pas marcher si tu le fais à moitié, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il faut se lancer ou pas se lancer. T'sais.
Après, à 11 ans, tu fais la réception dans la clinique de massothérapie de tes parents.
Oui.
Ce qui t'inspira un sketch dans ton show.
Mon Dieu, oui. Oui, mais qui est pas dans le show en ce moment, mais que j'ai déjà fait des jokes là-dessus. Mon Dieu, c'est drôle, oui.
Tu, parce que tu n'avais pas encore mué, donc les clients pensaient que tu étais une femme.
Ben oui, puis évidemment, t'imagines pas que c'est un enfant qui répond au téléphone quand t'appelles dans une clinique, là, tu sais. Fait que, ouais.
Choisis pas d'être humoriste, ça nous arrive.
Exact.
Après, à 11 ans aussi, tu l'as déjà raconté dans pas mal d'interviews, mais j'adore cette anecdote. Tu vas voir le spectacle de Louis-José Houd, ton idole à Terrebonne.
Ouais.
Quelqu'un s'élève pour aller aux toilettes pendant le spectacle, lui il arrête le spectacle, on dit on va l'attendre, et là ta mère te pousse carrément à va lui demander de signer un autographe, ce que tu fais.
Ouais.
Il te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il te dit humoriste.
Ouais.
Comment ça se passe après?
Après, il me dit, ben parfait, tu viendras à la fin du show faire une joke sur scène. Fait que tout le reste du show, j'écoute plus le show. Je pense juste à ce que je vais dire sur scène. Je suis nerveux. Je me dis, à un certain point, il doit m'avoir oublié. Là, t'sais, voyons donc. T'sais. Puis,
Est-ce que tu espérais qu'il t'ait oublié?
Ben oui, je me rappelle avoir été terrifié. Là, c'était malade. Là, t'sais.
Ouais, ouais.
Mais le show finit, il fait son rappel. Puis là. Et puis, il me rappelle, puis il me dit, Pierre, viens sur scène, hein? Fait que, tu sais, moi, je suis comme, quel con, tu sais, il me fait confiance pour closer le show, j'ai pas de joke, moi, tu sais. Puis, lui, il est comme, moi, lui, il sait très bien ce qu'il fait, mais il est comme, peu importe ce qu'il dit, le monde va l'encourager, puis ça va être bien correct, mais moi, je suis comme, si j'ai rien. Fait que je compte la seule joke que je connais, qui est une joke que... Faites-vous ça en Belgique, la joke du gars qui voulait rentrer dans la police?
Je l'avais jamais entendu avant que tu la fasses. J'ai entendu, je pense que tu l'as dit à tout le monde en parle.
Ah, ça se peut,
dans un podcast, mais je l'avais jamais entendu avant. Mais donc, je te laisse.
Ouais, mais oui, écoute, c'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police. Fait que la police est tassée, puis il est rentré dans le mur.
Alors, pour les Français, la police s'est tassée, la police s'est déplacée.
Ouais.
C'est mise sur le côté.
Puis je sais pas si vous dites rentrer dans la police.
Si, on dit rentrer dans la police.
Ah, ok.
Ça va. J'adapte pour le public.
Parce que rentrer, c'est un jeu de mots qui est basé sur rentrer.
Qui marche tellement mieux quand tu dois l'expliquer.
Oui.
C'est juste se tasser, on le dira.
Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est
adaptation.
C'est déplacé sur le côté. Donc, le gars est rentré dans le mur.
Voilà, ouais. J'invite tous les humoristes québécois, si vous allez en France, à me demander les termes. Est-ce qu'on utilise ça? Franchement, ça m'éclaterait de faire. Est-ce qu'on dit se tasser? Non.
Non, ouais, c'est ça. Mais tu m'as aidé d'ailleurs, hein, quand j'étais en Belgique, tu m'as dit qu'on disait pas japper, on disait aboyer.
Aboyer, ouais. C'est bon. Après, peut-être que les gens auraient compris, mais ça, tu vois, ça prend le temps de...
Ben oui, juste...
Ah ouais, il veut dire aboyer.
C'est assez pour te faire perdre...
Ça perd ton timing comique.
Ouais, exact. Ouais.
Après, à 12 ans, tu participes au concours Les Bâtisseurs du Rire, organisé par Juste pour Rire et Renaud Dépôt.
Oui, dans le porte-parole était Stéphane Fallu.
Dont tu as eu l'autographe, d'ailleurs.
Ouais. Ah ouais.
Tu fais un numéro sur le soccer. Tu vas jusqu'en finale, mais tu ne gagnes pas. Comment tu vis cette première expérience, enfin cette deuxième expérience sur scène en humour? Est-ce que tu t'en rappelles?
Oui, je me rappelle pas du show. Je me rappelle après le show, quand j'allais cogner chez mes voisins pour leur demander de voter pour moi sur Internet. Parce que c'était un vote populaire. Okay. Fait que c'est ce qui fait encore plus mal, parce que le public m'a pas choisi. Mais non, je me rappelle pas du show comme tel. Je me rappelle pas du numéro non plus, tu sais. Je me rappelle avoir rencontré Stéphane, avoir fait une petite entrevue avec, puis tout ça. C'était cool quand même, c'était vraiment cool. Je me rappelle aussi marcher dans les rues de Juste pour Rire, parce que t'es dans les rues de Montréal pendant le festival Juste pour Rire, puis avoir été marqué par ça quand même, de me dire « Hey, je fais un peu partie du festival ». J'étais vraiment, c'était cool pour ça.
Ouais, je comprends. Et est-ce que tu te rappelles le fait de ne pas avoir gagné? Est-ce que ça t'avait mis un petit coup au moral ou pas du tout?
Ben sûrement, mais je me souviens que j'étais déjà un petit gars rationnel qui disait « Écoute, il y a peut-être une plus grosse famille que moi, c'est un vote sur Internet, ça veut pas dire que je suis pas bon, et tout ça. » Donc, voilà.
Puis l'humour, c'est un marathon, j'y arriverai plus
l'humour... tard. L'humour! Puis où ce gars-là aujourd'hui? C'est un asti de perdant, il en fait plus de jokes, c'est ça.
J'ai tellement déjà entendu cette phrase plein de fois. Mais c'est un marathon, au final, ça va bien se passer.
Mais c'est juste pas une compétition. On peut-tu le dire? L'humour, c'est ni un sprint, ni un marathon. C'est pas une compétition.
C'est une marche.
Mais c'est même pas une marche. C'est de l'humour. C'est des jokes, ouais, pour vrai. Ouais.
Après, vers 13-14 ans, tes parents t'inscrivent dans une agence de figuration. Tu passes même un casting, t'es pris, tu feras quelques figurations, tu fais la vaisselle dans Ramdam, tu joues un gars torse nu dans Yamaska, un étudiant dans la série Virginie, je ne comprends même pas ce que je dis, ou encore une asperge dans une pub pour Walmart.
Ouais.
Parce que c'est toutes des références très québécoises, donc ça c'est pour la partie québécoise qui écoute. Mais est-ce que t'as aimé cette expérience de voir un peu l'envers du décor, d'être sur un plateau avec des caméras, tout ça? C'est quelque chose qui te donnait envie? Moi j'ai fait des figurations, je me suis dit, c'est trop marrant de voir un peu comment ça se passe.
Ouais, ben je me rappelle qu'au début j'aimais ça, là, tu sais, justement, avoir accès à l'envers du décor, mais ben vite, en fait, je me suis tanné de faire de la figuration parce que c'est un milieu crampant. C'est vraiment, j'ai jamais vu la série Extras de Ricky Gervais, mais on m'a dit que ça dépeignait vraiment bien ce milieu-là, dont j'ai été témoin. Là. C'est vraiment des gens qui... Il y a comme une hiérarchie, tu sais, comme s'il y a du monde qui en font beaucoup. Puis là, ils se prennent pour des comédiens, tu sais, puis s'il y a un vrai comédien de la série qui vient leur parler, ils disent hey, « Moi, je suis chum avec ce gars-là, là, tu sais. » Fait que c'est crampant, là, tu sais, il y en a qui se prennent pour d'autres. Puis moi, c'était l'époque où l'adolescence commençait, j'étais un peu gêné. Fait que je regardais ça, c'était vraiment j'étais muet, là, je regardais le monde autour de moi, puis je trouvais ça drôle, tu sais, de me dire que ces gens-là se prenaient pour des kingpins du showbiz. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu à ce moment-là.
Alors, à l'adolescence, t'habitais juste à côté de l'école, donc tu faisais des sketchs sur le temps de midi où tu répétais avec ton groupe en mangeant des pizzas pochettes. Tu faisais aussi de l'art dramatique pendant ton adolescence.
J'ai peur, hein, honnêtement, que tu saches tout ça. Mais continue.
Ça veut dire que tu l'as dit à un moment donné.
Ça se peut, oui, c'est que tu l'aies entendu. Qui était parent, c'est pas que je l'ai dit, c'est que t'as toutes ces informations-là.
C'est ça. En fait. Jusque le secondaire 3, tu voulais vraiment faire de l'humour, t'avais que ça en tête, mais tu découvres ensuite la musique, tu commences à jouer de la guitare, tu formes d'ailleurs un groupe mythique avec ton frère Louis-Paul qui s'appelait The Nipples.
Ouais.
Toi à la guitare, lui à la batterie. Il y avait aussi votre ami Jérémy qui venait aider. Vous faites des covers des Black Keys, des White Stripes. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu rêvais de faire ça dans la vie, vraiment d'être musicien professionnel? Tu te voyais faire ça ou...
Oui, je réitère, c'est super épeurant ton affaire. Puis, Oui, je voulais faire ça. Je me voyais rockstar. Je me voyais comme un chanteur de Muse, là, tu sais. Je me voyais extravagant, là, sur scène, là, une garochée partout, puis faire du rock semi-électro, là, quasiment. C'est pour ça que j'étais étudiant au cégep en musique là-dedans, puis ça n'a pas été long que me stunner.
Après, tu as commencé à travailler dans un magasin d'instruments, t'as travaillé au Pizza Hut, t'as travaillé dans un camp de cirque.
Oui, c'est vrai.
Deux jours, où tu faisais des sketchs de personnages devant des enfants. Tout est lié.
À défaut de ne pas savoir comment faire tout le reste, la jonglerie, le slackline, oublie ça. Je faisais les personnages.
À 18 ans, tu fais des démarches pour ajouter le nom de ta mère à ton nom, pour pouvoir t'appeler Pierre-Yvroy Desmarais.
Oui.
Donc tu as rajouté le Desmarais pour son 50e anniversaire.
Et je pense que oui.
Il me semble, oui.
Ouais.
C'est pour l'anniversaire de Carole, quoi.
Oui, exact. C'est ça. Ouais, exact.
Ensuite, tu fais donc cégep en musique. T'aimais pas beaucoup les cours pratiques, il me semble. Toi, ce que t'aimais beaucoup, c'était la composition.
J'aimais tous les cours, sauf le cours d'instrument principal, qui est le cours de guitare.
Okay.
Rien contre mon prof, qui est extraordinaire. Daniel Lacoste, un guitariste hors pair. Mais non, c'est la passion pour la guitare, tout simplement, que j'avais pas. T'sais, fait qu'il fallait que je pratique 3-4 heures par jour, minimum, là, t'sais. Puis c'est très technique, c'est les gammes, c'est tout ça. Fait que j'avais vraiment pas la passion pour la guitare à ce point-là, de découvrir ma guitare puis de développer ton instinct au bout des doigts, là, tu sais, j'ai même plus besoin d'y réfléchir, puis je fais mes gammes, ça m'écœure, ça me lève le cœur de penser à ça. Mais j'aimais tout le reste, la théorie musicale, même j'aimais ça, tu sais, même de juste comprendre pourquoi il y a des harmonies qui fonctionnent, qu'il y en a qui fonctionnent pas, comprendre les règles de l'harmonisation classique, de comment est construite une pièce de musique classique, tout ça, j'aimais ça, les cours de groupe, j'adorais ça, les cours de chorale, j'adorais ça. J'ai vraiment tout aimé, sauf la guitare, ce qui était le cours principal. Mais je me suis mis, tu sais, fait que tu choisis un instrument secondaire, j'ai choisi le piano, puis ça c'est resté, j'ai vraiment aimé le piano. Puis j'en joue encore, mais la guitare, tu vois, j'en joue presque plus, là, tu sais.
Ouais. Ouais. C'était d'ailleurs ce que j'allais dire, t'as délaissé la guitare pour le piano. Ah, t'as fait quelques petits sketchs avec la guitare, t'as fait un sketch sur le réchauffement climatique dans l'émission Alt, où tu joues à la guitare avec Arnaud Soli.
Oui.
Tu as fait une chronique à la soirée T'es encore jeune aussi à la guitare.
Ouais.
Également. Ouais, je sais.
Ben, tu vois, c'est parce que c'est devenu un instrument par défaut. Ben, juste parce que dans les soirées d'humour, quand tu veux essayer des tunes humoristiques, ben, la seule affaire que tu peux traîner, c'est une guitare. Fait que, des fois, je composais au piano, puis là, je transposais la guitare, puis je l'amenais au jockey pour essayer. Puis là, ben, ça devenait des chroniques, puis des...
Est-ce que le piano est plus drôle que la guitare?
Non, mais c'est une maudite bonne question. En fait, j'ai l'impression que c'est deux approches différentes. Tu sais, le piano est un petit peu plus rythmique, j'ai l'impression. Fait que c'est plus facile de... c'est plus facile de... Ben, c'est plus rythmique. Plus ou moins. La guitare aussi, c'est rythmique, mais je veux dire, c'est plus complet, tu sais. Fait que c'est plus facile de créer une tune complète, en tout cas, à mon avis, à moi, vu que t'as la basse, t'as autant la basse que les autres, tu peux faire autant du rythme, quelque chose de plus planant. Fait que c'est plus complet, tu peux vraiment synthétiser une chanson complète au piano. Puis la guitare, je trouve ça un petit peu moins inspirant, tu sais. J'ai l'impression que ça revient, ça finit par revenir toujours au même. Le range déjà musical est plus petit. Fait que je trouve que c'est plus facile, ouais, peut-être, de se promener dans la musique du piano pour faire des jokes, peut-être. À mon avis, à moi. Mais ça veut pas dire que c'est plus drôle. C'est plus facile, je pense.
Je joue d'aucun instrument, donc je ne peux pas trop avoir un avis sur la question. J'ai serré au saxophone, mais là, c'est beaucoup plus dur pour faire de l'humour.
Ah, mais Christy, ça serait malade. Ah, ça serait écœurant, hein, honnêtement.
Voilà, j'ai le concept pour mon prochain show.
Non, mais pour vrai, pense-y. Comment
juste
c'est
que
drôle.
J'apprenne à jouer du saxophone, d'abord. C'est plus long pour faire un show avec.
Oui, oui.
Ouais, vrai. Je pense que c'est mieux.
Ouais, j'avoue.
Ou alors, tu ne joues pas du saxophone, tu en fais un sketch. Mais c'est... Je dois acheter un saxophone.
C'est un autre niveau. Oui,
c'est ça.
Mais Christy, pour vrai, c'est drôle, hein, de faire un sketch au saxophone. Au saxophone, c'est le pire instrument. Mais vas-y, continue.
Au cégep, tu as commencé l'improvisation. C'est là que tu rencontres ton ami et auteur sur ton spectacle, Alexandre Forêt, oui. Avec qui tu vas animer cégep en spectacle et jouer le sketch Le bottin du tiroir.
Du terroir.
Oh, ouais. C'est le terroir qui est.
Puis c'est les potins.
Je sais juste pas lire.
Le bottin du tiroir.
Je ne sais je ne sais pas lire.
Mais c'est un autre sketch. Il y a du potentiel. Le bottin, j'ai mis mon bottin dans le tiroir. Il y a quelque chose de funny là-dedans.
Je ne sais pas lire. C'est écrit les potins du terroir. Je ne sais juste pas lire, en fait. Ouais. C'est impressionnant.
Dites-vous ça, des potins?
Oui.
Ouais, ok. Oui, ça, et le terroir, tout le monde connaît.
Par contre, si tu veux, on ne dit pas toun.
Ah ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais,
c'est ça. C'est pour ton information.
Non, mais je m'en doutais.
Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un ne comprend pas le terme, toon, ça veut dire chanson.
Ouais,
ça, non, mais parce que moi, j'ai fait un épisode avec Charles Deschamps, et il y a des gens en Europe qui m'ont dit, j'ai essayé d'écouter, mais je comprends pas. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas.
Mm.
Je me suis dit, je vais peut-être
j'avoue
expliquer.
Que je pourrais peut-être faire un petit effort. Là,
non, on fait pas d'effort, mais je me suis dit, s'il y a des termes, il faut peut-être que j'y pense à le dire. Pour pas
quasiment mettre un disclaimer là, dans la description du podcast. Attention,
contient
le mot toon.
Toon égale chanson.
Ouais, exact. Pour
ça, c'est vrai. Poussé sur le côté.
Ouais.
Garroché, lancé.
Ouais. potins du terroir.
Les potins
c'est
du
ça.
Terroir.
Ouais, il y avait un sketch.
Mais donc, t'as commencé l'impro à ce moment-là.
Ouais.
Quel type d'improvisateur t'étais? Et est-ce que, parce que tu as continué à en faire à l'université après, est-ce que c'est quelque chose que tu aimais? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu aimais pas?
Ce que j'adorais de l'impro, c'est le challenge mental en quoi ça consiste. J'adore ça. Le travail d'équipe, tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun d'avoir une chimie. Alex, on était un duo de feu. On s'était parti une équipe dans une ligue dans la ville de Joliette. Fait qu'on faisait de l'impro au cégep, puis en plus, en parallèle, on était genre les stars de la ligue de Joliette. Fait que c'est vraiment j'ai plein de beaux souvenirs associés à l'impro. Fait que la chimie de gang, le challenge mental, c'est ce que j'aimais le plus. Ce que j'aimais le moins, c'est la répétitivité, tu sais, il y a quelque chose de... Quand surtout dans les compétitions d'impro, il y a... rapidement, les gens ont peur de perdre les matchs, fait que là, ils se mettent à revisiter les mêmes patterns. C'est ce que j'aimais moins, tu sais. Il y a vraiment des ligues aussi où c'est plus cool quand tu t'en fous, tu sais. Fait que là, les gens décrochent, fait que là, ça fait que t'as l'impression de regarder toujours la même impro parce que le monde veut faire ce que le public aime de ces gangs-là. Fait que, il y a un peu moins, même si c'est créatif, des fois, c'était l'inverse de la créativité, tu sais. Fait que ça, c'est ce que j'aimais moins. Puis j'aimais moins aussi le côté... Il y a comme une hiérarchie de... Dans telle ligue, ah, eux autres sont cool. Puis telle personne, c'est une star d'impro, lui. Il est tellement nice. Puis là, lui, il arrive, puis il se prend pour quelqu'un d'autre. Mais c'est un prof de français. Tu sais, je veux dire, comme dans sa classe, il se prend-tu autant pour quelqu'un d'autre? C'est juste un humain normal, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de drôle. Là. C'est une minuscule planète, là, l'impro au Québec. À Montréal, en tout cas. Fait que ça, c'est ce que j'aimais moins. Mais... J'adorais ça. Tu me demandes quel genre d'improvisateur j'étais.
Est-ce que t'étais très physique? Est-ce que t'étais très dans la joke ou plus dans la construction?
Je pense que au début j'étais moins self-conscious. Fait que j'étais vraiment physique, bruyant, tu sais. Puis à un moment donné, tu commences à côtoyer des bons joueurs, puis ça, fait que là tu te regardes plus jouer. Fait que j'ai eu une passe où c'était plus cérébral. Puis j'ai arrêté d'en faire quand même rapidement, tu sais, je pense que je l'ai fait pendant 5 ans, tu sais, puis ça me manque honnêtement, j'en ai refait, c'est drôle, une semaine et demie pour la première fois depuis 6 ans, puis j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment le fun en fait, c'est le genre d'affaires que j'aimerais refaire, pas dans le cadre nécessairement compétitif des matchs d'impro, juste un show d'impro, quelque chose de le fun là-dedans.
Et là, c'est vraiment pour les plus fans d'improvisation, mais moi, ayant fait beaucoup d'impro, j'adore ça.
Ouais.
Du coup, j'ai besoin de savoir quelle serait ta catégorie préférée et la faute que tu recevais le plus.
Je vais dire ça va beaucoup de décrochage. Je décroche assez facilement, surtout quand je joue avec mes amis qui me font rire. Sinon, moi, j'aimais en général les catégories où il n'y a pas de caucus, tu sais. Fait que les fusillades, j'aimais ça, tu sais, quand tu pointes en avant puis là, te donnes un thème puis t'as pas le temps de réfléchir, c'est tout de suite. J'aimais toutes les catégories très contraignantes aussi. Tu sais, j'aimais vraiment ça parce que là, tu te fais un devoir d'accuser le cadre dans lequel on vient de te mettre. Puis ça, c'est le genre d'affaire que j'aimais bien. Mais j'aimais pas les chanter, là, tu sais. C'est là, okay. On pourrait penser que j'aimais ça, mais non, j'avais ça.
Pu.
Pas que j'étais mauvais en chanter, là. J'ai eu des beaux moments à chanter, mais si tu me dis là, on va faire une impro chantée, le cœur me lève. Okay. Fait que, mais j'aimais les impros avec beaucoup de restrictions.
Ok.
Étonnamment. Puis, c'est ça, les fusillades où t'as pas le temps de réfléchir, j'aimais ça.
Et est-ce que l'impro, tu trouves que ça a eu un rôle important dans ton parcours? Tu serais pas arrivé là où tu en es sans l'impro, tu penses?
Ouais, ben ouais. Puis ne serait-ce que juste les connaissances que j'ai faites, les gens que j'ai rencontrés. Louis Courchaine, qui était mon coach d'impro. Tu vois c'est qui,
oui,
Louis Courchaine? Qui joue dans le Club Soli, justement, que je recroise, tu sais, un peu partout.
Qui joue aussi dans le Punch Club?
Absolument. Lui, c'est une star d'impro. Oui, oui. Louis Courchaine, c'est vraiment un des meilleurs au Québec, vraiment. C'était notre coach, en fait, quand j'étais à l'UQAM. Puis lui, il a fait l'école de l'humour. Lui, il travaille activement dans le milieu de l'humour. C'est un auteur prolifique là, dans le milieu de l'humour. Fait que j'ai demandé de me coacher, en fait, à écrire mon numéro d'audition pour l'École nationale de l'humour. Fait que juste ça, c'est un apport notable. Puis juste aussi de passer de, tu sais, j'étais un petit gars de la Chenet qui faisait des jokes, qui faisait rire son école. Après ça, j'étais à Joliette, on faisait rire le monde dans le bar à Joliette. Puis là, t'arrives dans un bassin d'impro à Montréal où c'est là que ça se passe, puis là tu rencontres justement des vedettes d'impro, là tu fais de l'impro, tu fais des matchs spéciaux avec Arnaud Soli qui était une vedette d'impro aussi à ce moment-là. Tu sais, Arnaud, c'est drôle parce qu'il était déjà, il était big en impro, puis moi j'étais fuck all, personne. Puis à ce temps on est des collègues, on se côtoie tout le temps. Fait que, comme je te dis, c'est vraiment un microcosme. Fait que juste de déjà te frotter à ces gens-là, d'essayer des affaires puis tout ça. Ben tu développes un sens de l'humour beaucoup plus aiguisé parce que là t'es là où ça se passe, c'est comme dans l'œil du cyclone, t'sais. Fait que ça m'a aidé définitivement.
Ok. Après, en 2014, tu rencontres David Bocage au Petit Medley. Tu viens le voir pour lui dire que tu aimes beaucoup ce qu'il fait, car tu le connaissais de En route vers mon premier gala,
ouais.
Émission que tu regardais, auquel tu as participé. Après, on va y revenir. Aujourd'hui, vous avez travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Vous avez gagné un Olivier avec la chanson BFF à distance. Il écrit également avec toi sur. Il a écrit avec toi sur ton gala. Il a écrit avec toi sur ton spectacle, surtout sur la première ébauche du spectacle, ouais. Ce qu'il m'a dit dans le podcast.
Ouais, c'est vrai.
Il a aussi beaucoup participé à la chanson Grand-maman parle.
Oui.
Oui. Voilà, ça va. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien de collaborer avec David?
On a le même sens de l'humour, je pense. T'sais, on aime les mêmes affaires.
Le fait de se faire rire l'un l'autre, c'est important pour travailler avec quelqu'un?
Oui. Oui, oui. Puis que l'autre te connaisse assez bien pour savoir comment toi tu fais rire aussi. T'sais. On fait pas rire nécessairement de la même manière, moi puis David, même si on a le même sens de l'humour, mais il sait comment moi je suis drôle. Fait qu'il peut m'aider à me rendre là où moi je veux me rendre.
Okay.
C'est la même qualité que j'attribuerais à Alexandre Forêt, avec qui j'écris aussi. C'est que c'est des gars qui me connaissent tellement bien que quand j'ai une idée, des fois t'as une idée puis tu sais pas où tu veux aller avec ça, puis eux sont comme sont capables d'ouvrir des portes, de dire, tu sais,
okay. Ouvrir les portes dont tu as besoin qu'ils soient ouvertes, quoi. Et après tu te dis, ah, j'avais pas pensé à ça, super, ça
marche. Ben de genre, eux c'est beaucoup par les David, c'est beaucoup par les questions, tu sais. Fait que c'est, mettons, j'ai une idée de bit, puis là je donne mes 3-4 idées de joke, puis il est comme ben, c'est dur de parler de ça sans avoir une bit précise, mais il va surtout poser des questions, genre, ça te fait quoi, ça, telle affaire, tu sais. Fait que là, tu te mets à réfléchir, puis à parler, tu vas dans des zones où tu serais pas allé si tu faisais juste réfléchir tout ça. Fait que c'est la capacité que David a d'ouvrir des pistes de réflexion qui peuvent mener vers des jokes. Okay. Il est très analytique là, dans sa manière de travailler. Fait que ça peut aider justement pour ça.
Okay. Mais tu travailles aussi beaucoup avec Alexandre Forêt, tu l'as dit. Votre manière de travailler, ça se passe plus ou moins comment?
Lui, c'est différent, Alex. Tu vois, lui, il m'amène dans l'émotion plus que dans l'analyse comme David l'a fait. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça a été un bon balan, en tout cas, pour le show. Parce que Alex, c'est beaucoup. Alex, on a fait énormément d'impro. On a niaisé beaucoup, Alex puis moi, ensemble. Fait que. Souvent, on a tendance à trouver les bits les plus niaiseux ont souvent été de travailler avec Alex parce que on se met à niaiser sur l'idée puis à pousser l'idée trop loin. Puis Alex est vraiment bon pour me chatouiller aux bons endroits, tu sais, m'amener à rendre ça plus foufou encore, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est le fun avec Alex. Fait que des fois, c'est autant juste je l'appelle parce que j'ai une idée de joke. Des fois, c'est juste pour me donner confiance, puis je veux juste le faire rire, puis comme oui, c'est bon, puis vas-y. Puis des fois, ben, c'est, on se met à riffer, puis à inventer des possibilités autres et fofolles.
Après cégep, t'étudies en communication et télévision à l'UQAM, avec l'envie de devenir réalisateur pour la télévision et le cinéma. En 2014, ben, Alexandre Forêt est admis à l'École nationale de l'humour, et tu expliques que c'est un peu ça qui t'a rappelé
oui.
au fait que tu voulais être humoriste, c'est quelque chose que t'avais réussi à oublier.
Ben, c'est quelque chose qui... Ouais, moi, ouais. Je pense que j'avais oublié... Ben, je pense que je le savais que c'était mon rêve avant, mais je me disais, c'était mon rêve avant. T'sais, c'était okay. vraiment ça. Puis le fait de faire de l'impro, d'avoir un certain succès entre guillemets dans mon petit milieu d'impro, puis de croiser des gens comme Simon Boisvert qui faisait de l'impro à l'UQAM avec moi, puis qui rentrait à l'École de l'humour en même temps qu'Alex, de voir que ça se tramait un peu autour de moi, que les gens qui avaient un peu le même parcours que moi se mettaient à faire ça, je me disais Christy, je pourrais faire ça. Puis je me disais, j'aime pas ça en ce moment, ce que j'étudie, tu sais. Fait que j'ai drop out, j'ai lâché l'université pour écrire à temps plein, travailler dans un magasin de musique, écrire, puis j'ai suivi un cours du soir à l'École de l'humour. C'est ça. C'est vraiment Alex qui a été la bougie d'allumage de... C'est vrai, tu sais, on a le même genre de parcours, le même genre de sens de l'humour. Lui, il s'est inscrit, pourquoi je le ferais pas, tu sais.
Ok. Tu devais être le seul humoriste que quand tu as dit « je quitte l'université », tes parents ont fait « yes ».
Ouais, exact. Mais pour vrai, ça a été ça la réaction, c'est fou, hein.
C'est trop, c'est génial en même temps. Je comprends la confiance que t'as dans tes affaires, de dire, même quand j'écoutais des podcasts que t'as fait il y a longtemps, il n'y a jamais eu de plan B, jamais eu de doute sur le fait que ça allait bien se passer. Enfin, je l'entends pas, je sais pas si tu es d'accord avec ça, j'ai jamais le moment où t'as douté que ça se passerait bien. Genre, par exemple, si t'avais pas été pris à l'audition de l'École nationale de l'humour, qu'est-ce que t'aurais fait? T'as pas pensé à ce truc de...
Non.
T'as pas pensé à ça?
Ben, puis tu vois, ça veut pas dire que j'étais comme... Je le sais que je vais être pris. C'est juste que j'ai jamais... C'est que tout le long du processus, j'ai pas lésiné, là. Tu sais, j'ai été à all-in, là. Tu sais, je me suis pris un coach qui était Louis Courchaine. J'écrivais tous les jours. J'ai fait le cours du soir d'écriture, puis j'ai fait exprès de choisir le prof qui était le prof qui donne le cours d'écriture à l'école, parce que je voulais celui qui donne activement le cours aux étudiants pour avoir le même type de formation. Et comme, j'ai vraiment eu l'impression de tout donner. Puis je me suis jamais dit genre « Ah, je vais m'inscrire, t'as coup, je vais voir, je vais créer des petites jokes, si ça marche. » J'étais comme « Non, non, je veux que ça marche, fait que je vais faire tout ce qu'il faut. » Puis ça me faisait plaisir de le faire, tu sais. J'avais du fun à le faire, je me mettais pas la pression de « Il faut que ça marche, tu sais. » Fait que je me suis jamais vraiment posé de questions, tu sais. Fait que quand j'ai su que j'étais pris, quand j'ai vu le courriel, je me suis mis à pleurer comme un bébé, là, tu sais. J'étais pas comme « Eh oui, évidemment, tu sais, tu comprends? » Fait que oui, il y avait une confiance, mais je sais pas comment le décrire, tu sais. J'ai jamais douté, évidemment, qu'en voyant le courriel, j'étais comme ah, t'as coup qu'ils me prennent pas, tu sais.
Oui.
Mais je me serais, je sais pas, j'aurais pas pu être comme ben, je me suis pas permis d'avoir une excuse, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Dans le sens où j'ai tout fait, tu sais.
Là, c'est moi qui essaie de comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a confiance. Parce que moi, même si j'aurais sûrement fait comme toi, j'aurais bossé et tout pour être sûr, pour mettre toutes les chances de mon côté, mais j'aurais quand même pensé tout le temps, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je pars peut-être un peu trop négativement aussi, c'est peut-être un manque de confiance en soi aussi, mais j'ai plus souvent tendance à penser que ça va mal se passer, et je suis agréablement surpris quand ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais oui, je comprends complètement. Fait que je me demande si c'est réellement de la confiance ou de l'optimisme ou juste, peut-être que je me ferme la porte de la peur, entre guillemets, là, dans ma tête, de comme t'as coup que.
Mais comment on ferme cette porte? C'est la question.
Ben, c'est ça. J'allais pas la solution. C'est ça le problème, mais définitivement, il y avait une confiance, mais c'est que, tu sais, mettons, quand j'entends ça, ah, t'étais déjà confiant, là, là, là. Moi, j'en ai des doutes, là, tu sais, évidemment, tu sais, je me pose des questions, puis c'est que moi, j'associe quasiment ça à de l'arrogance, puis je n'ai jamais laissé l'arrogance prendre le dessus. Jamais. J'étais comme, ben oui, c'est une journée de stage, là, tu sais. Quand t'es pris au début à l'audition, ben là, ils en prennent une trentaine, puis là, il y a une journée de stage où tout le monde est là, puis fait des exercices d'impro, des exercices d'écriture, puis tout ça, puis ils voient comment tu travailles en équipe, puis tu sais. Puis j'étais pas à la journée de stage en me disant, moi, vous allez me forcer, c'est sûr que je rentre. T'sais, tu comprends? C'était pas ce type de confiance-là. C'était okay, comme, non, moi, je m'en vais au stage, puis je me mets all-in, là, tu sais, je vais faire de l'impro, puis je vais me mettre vulnérable. Ça prend aussi une capacité à te mettre vulnérable, de te dire, je vais essayer pour vrai, tu sais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a. Je connais des gens, tu sais, qui se permettent pas d'essayer pour vrai, tu sais, qui se disent, si ça marche pas, c'est parce que je voulais pas que ça marche, dans le fond. T'sais. Tu comprends ce que je veux dire? De genre, ouais, je m'en fous, là, tu sais. Je l'ai essayé, puis pff, tant pis, ça marche pas. Fait que il y a comme une vulnérabilité dans je me mets all-in pour que ça marche. Parce que ça veut dire que si ça marche pas, c'est ta faute, puis ça va faire mal, tu sais. Fait que, moi, c'est mes parents, tu sais. Tout le crédit revient à mes parents qui m'ont toujours dit, genre, fais-les à 100. Si t'essayes quelque chose, essaye-les à 100%, puis. Ça va marcher. Okay. Fait que je sais pas. J'ai pas le secret, mais tout ce que je sais, c'est que ça prend le courage de se mettre
vulnérable et ouais. De vraiment essayer à fond, quoi.
Ouais, okay. Parce que sinon, c'est comme une porte de sortie aussi mentale de dire ouais, ben je sais que si je l'avais essayé pour vrai, si j'avais voulu, j'aurais pu, tu sais. Fait que je l'ai fait dans mon tube, mais c'est pas grave parce que j'avais un plan B, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, je comprends bien.
Fait que mais c'est tout le crédit revient à mes parents, je pense. Ben, ils ont toujours.
Bravo. Bravo. Ouais, ouais. Et donc, tu fais ta première scène de stand-up au Boudoir, à la soirée d'humour de Didier Lambert, un 5 minutes pour tester d'ailleurs ton numéro d'audition.
Exact.
Comment s'est passée ta première scène et de quoi tu parlais puisque c'est ton numéro d'audition?
De quoi je parlais? Je pense que j'avais. J'avais vraiment accumulé plein de liners, ou en tout cas plein de jokes pas longues, là, que j'avais rabouté ensemble. J'avais créé une genre de fausse histoire. En fait, j'avais comme une anecdote drôle, puis des liners. Fait que j'ai fait fitter les liners dans l'anecdote drôle qui durait 5 minutes.
T'sais.
Ok. Je me souviens juste que c'était une histoire de quelqu'un dans un ascenseur. Puis là, j'avais pesé sur... Je montais juste d'un étage, puis lui montait de genre 15 étages. Puis là, je me trouvais vraiment loser d'y faire perdre du temps pour monter juste un étage. C'était comme une affaire de même. Puis là, à travers ça, il y avait plein de liners, puis tout ça. Puis
okay.
C'était pas bon, là. Je pense pas que c'était bon, mais ça s'est super bien passé parce que Didier m'a présenté en disant « C'est sa première fois sur scène. » Il se prépare pour les auditions, soyez gentils. Fait qu'évidemment, les gens sont full, bienveillants, puis là, ils sont comme si ça pas mal. Fait que ça s'est bien passé pour ça, là, tu sais.
En 2015, je sais pas si c'est avant l'école ou si t'étais déjà à l'école, tu vas me préciser. Rosalie Vaillancourt, que tu connais car tu es dans la même équipe d'impro qu'un de ses meilleurs amis,
oui.
Te demande de jouer le rôle de son chum dans la série Rosalie,
oui.
Une série dans laquelle Rosalie te fait plein d'atrocités pour que tu la quittes.
Oui.
Quel souvenir tu gardes de cette première expérience dans une web série, même si tu ne parles pas avant l'épisode 7?
J'ai un bon souvenir. En fait, ce qui est drôle, c'est que et quand je repense à ça, je repense à quel point j'étais gêné à ce moment-là. Mm-hmm. C'est ça qui me fait rire. Tu parles de confiance, puis j'essaye de décortiquer ma psyché, puis pourquoi j'avais pas tant douté, puis tout ça. Puis je me regarde, je me replonge dans cette époque-là, puis j'avais tellement pas confiance en moi. T'sais, j'étais tellement gêné que je pensais que c'était un peu ça ma personnalité, là, le gars qui parle pas beaucoup. Là, t'sais, fait que là, c'était, ça marchait que le rôle qu'elle me donnait, je parlais pas. T'sais, puis ça. Fait que. Quand j'y repense, ça me replonge à cette période-là où je commençais à comprendre ce que je voulais faire puis ce que je voulais devenir. Puis c'était une expérience formidable de travailler avec quelqu'un qui avait de la drive, comme Rosalie, qui savait exactement ce qu'elle voulait, puis tout ça, c'était cool.
Mais t'as travaillé dans plein de projets avec Rosalie, complètement lycée, la série Rosalie, la comédie musicale Rosalie en 2020, sa série Avant d'être morte, interprète la voix de Chantal, votre chien.
Ah ouais?
Ouais, c'est toi qui faisais la voix de Chantal.
C'est sûr?
Ben oui.
Ah ouais?
Non?
Ça se peut, je pense pas.
Tu sais pas.
Je suis pas sûr.
T'es crédité sur IDMB, il me semble que c'est
ouais.
Toi. Et de mémoire, j'ai l'impression que quand j'ai regardé la série, c'était ta voix.
Hey.
Mais je vais vérifier cette information.
Mais ça se peut,
je connais mieux ton parcours.
Waouh, oui. Oui, oui, maintenant, oui.
Vous avez joué un spectacle ensemble qui s'appelle Love.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que vous avez travaillé aussi bien ensemble?
C'est une mauvaise bonne question. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on avait une dynamique comique qui marchait bien, mais surtout à ce moment-là, tu sais, comme je te dis, j'avais comme un autre approche. J'étais vraiment plus cérébral, entre guillemets. Mm-hmm. J'étais beaucoup parlé. C'était pas l'humour physique, extraverti, niaiseux comme ce que c'est aujourd'hui, mm-hmm. Mais tu sais. C'est ce qui faisait que ça marchait, tu sais. J'étais vraiment le straight man de ce duo-là, tu sais.
Mm-hmm, oui.
Fait que ça a beaucoup changé, tu sais. Fait que je sais pas si aujourd'hui on a la même dynamique comme... C'est dans Complètement Lycée, mon personnage, il est way out there, là, tu sais. Il est complètement zouzou, comme on dit. Puis à ce moment-là, c'était une autre dynamique comique où j'étais plus le calme, introverti, mm-hmm. Puis ça. Mais je pense qu'elle a une bonne compréhension comique... je pense que j'étais bon aussi pour faire des passes à palette, fait que le duo marchait bien, fait que je pense que c'est pour ça, ouais.
Quand vous avez fait la série Rosalie, c'est avant l'École nationale ou tu étais déjà
ouais,
à l'école?
C'était avant l'école, ouais.
Ok.
Elle était encore à l'école à ce moment-là.
Mes informations sont dans l'ordre, incroyable. En 2015, donc, tu intègres l'École nationale de l'humour en création humoristique. Dans ta cohorte, il y a Mathieu Dufour, Léa Strelitzky, Sam Boisvert, Brian Piton, qui font tous les deux tes premières parties, ouais. Qui sont devenus des amis proches. Comment tu décrirais ton expérience à l'École nationale? Et est-ce que toi, tu recommanderais l'école à ton tour?
Moi, ça a changé ma vie, là, l'École de l'humour. En fait, oui, je la recommanderais. Je pense que si tu as le même type de personnalité que moi, oui, 100%. Moi, ça m'a vraiment aidé. Comme je te dis, je me cherchais, tu sais. Dans le fond, j'avais une compréhension comique. Quand je faisais de l'impro, je me laissais aller. J'étais plus physique, j'étais plus... me permettait d'aller dans des zones, mais j'avais pas la confiance en moi ou la connaissance de moi-même pour savoir exactement c'était quoi, moi, ma personnalité, tu sais, sur scène, en tout cas. Puis, c'est une expérience humaine extraordinaire. T'es 2 ans avec des gens qui veulent faire la même chose que toi, tu sais, trouver des affaires drôles à dire. Fait que c'est vraiment une bulle qui te permet de développer une confiance puis d'utiliser ces outils-là que t'as de compréhension humoristique, d'analyse, de créativité, puis de les mettre en œuvre devant des gens qui te jugeront pas parce que t'es dans une petite bulle. Fait que ça développe la confiance puis une expertise vraiment de manière condensée, t'sais. C'est 2 ans intenses. Fait que moi, ça a changé ma vie. Juste, j'ai appris à me comporter avec d'autres êtres humains. Tu sais, c'est vraiment... Tu te remets en question là, comment je suis dans un groupe, comment je suis par rapport aux autres, comment je peux être plus... juste une meilleure personne, ultimement. Puis ça se transpose complètement sur scène aussi. Tu sais, fait que... Et puis, t'es beaucoup appelé à aider les autres, tu sais, à écrire avec les autres, à donner des commentaires pour les autres. Fait que... Tu développes une empathie, c'est vraiment chargé et ça a été d'une grande aide pour moi. T'sais, je pourrais pas le recommander plus pour des gens qui ont la même personnalité que moi. T'sais.
Ok.
Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont moins aimé ça. Il y a des gens qui ont vécu des très beaux parcours sans jamais passer par là, sans jamais même vouloir passer par là. Fait que, ça dépend vraiment de ton type de personnalité.
Mais pendant que t'es à l'École nationale de l'humour, tu faisais déjà pas mal de shows. Tu faisais la chronique au Medley Simple Malt.
Simple Malt, oui.
Au Simple Malt. J'ai pas reculé. Medley Simple.
Ouais, ça aurait pu.
Medley
ouais,
Simple Malt.
Ouais.
Tu crées ta page Facebook où tu publies des vidéos comme des parodies d'émissions de pêche et de chasse avec Antoine Durocher.
Oui.
Plus tard, des vidéos avec Rosalie, avec Brian Piton, avec Sam Boisvert, avec Mathieu Pepper, Arnaud Soli, Alexandre Forêt. Moi, j'ai adoré la vidéo où tu dois quitter Rosalie Vaillancourt ouais. Et puis Brian Piton,
ouais.
Qui est vraiment drôle. Je mettrai les liens. Il y a une vidéo où tu expliques aussi comment faire caca. Qui est...
Oui, c'est vrai! Avec Alex! Ouais, tu vois, c'est ça, je te parle. Les bits les plus stupides que j'ai faites, c'est tout avec Alex.
C'est ça.
Ouais.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tu postais pas mal de vidéos. J'ai l'impression que tu as regoûté un petit peu avec le club Soli de ouais. refaire des sketchs humoristiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire et qu'on peut espérer te revoir faire à l'avenir?
Oui, c'est sûr, je vais jamais arrêter de faire ça. Puis c'est, en fait, c'est mes premiers pas en humour. Tu sais, je veux dire, au-delà du concours avec Stéphane Fallu, c'était les sketchs. Tu sais, mon frère, quand j'étais tout petit, il faisait ça. Il faisait des sketchs de 7-8 minutes, puis il me faisait jouer dedans. Fait que j'étais tout jeune, puis je faisais ça. Puis lui, c'est lui qui m'a initié au montage vidéo. Tout ça, fait que je faisais des sketchs au secondaire, je filmais des sketchs avec mes amis, on avait un channel YouTube. Fait que faire des sketchs de 3-4 minutes, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis j'espère que ça va continuer d'en faire partie. Tu sais, le bye-bye, c'était ça, tu sais, c'est des sketchs. Là,
mais moi, je dois le préciser, mais le personnage du chef français, ouais. le Club Soli, c'est probablement le personnage qui m'a fait le plus rire au monde.
Yes!
J'adore ce... Et t'as entendu dans le podcast, J'ai du temps qui discute, parler de tout le background de ce personnage, comment tu l'as créé en France et tout ça. Je vous invite à vraiment aller écouter le podcast de J'ai du temps, puis j'ai trouvé ça génial parce que t'as fait un show de personnages dans un show Zoofest.
Oui, c'est vrai.
Tu faisais des poèmes sexuels
exact.
Avec ce personnage et ouais. c'est je crois que l'extrait dans le podcast je l'ai réécouté 10 fois.
Il met,
c'est toi qui refais des poèmes et j'adore ce personnage. Moi je peux voir un spectacle de ce personnage sans aucun problème.
C'est drôle, il était dans le one man show jusqu'à un certain point. Ce numéro là était dans le show, puis c'était hit or miss là. C'était soit un coup de circuit, soit un énorme fret.
Ouais, c'est ça. C'est souvent les numéros que je préfère. C'est les numéros où je me pisse dessus et la personne à côté de moi ne comprend pas.
Exact.
C'est souvent les trucs qui me font le plus
rire. Ouais, mais c'est vrai. C'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, mais je pouvais pas vivre ça.
En tant qu'humoriste, je comprends.
Exact. Puis, en plus, il y avait quelque chose dans... C'est très joué, tu sais. Fait que j'avais besoin d'être dans la folie du moment, tu sais. Les premières fois où je le faisais, pourquoi c'était un délire puis que ça riait autant, c'était parce que il y avait une spontanéité qui venait avec ça, tu sais. J'adlibais un peu, je réfléchissais pas à ce que j'étais en train de faire, je faisais juste le jouer, le personnage. Fait que plus tu le fais, vu que c'est que jouer, plus tu fais, faut que je le joue comme la dernière fois que je l'ai joué, tu sais. Fait que là, t'es plus dans le moment présent, il y a plus la spontanéité, t'es comme dans, essayer de recréer le moment, fait que... Ça commençait à perdre un peu cette magie-là que je voulais jamais perdre. Fait que j'ai préféré retirer le numéro plutôt que de le rendre dol, tu sais.
Bah, tu sais que si tu fais un spectacle avec que ce personnage-là, moi, je viens le voir. Y a pas de souci. Ça m'a fait tellement rire.
Ben, t'es super fin. T'es vraiment fin. Mais je l'aime beaucoup aussi, ce personnage-là. Qui était à la base pas un cuisinier, c'est ça. C'était vraiment
qui l'a retransposé ce personnage-là pour le Club Soli.
Exact.
Pour qu'il existe quelque part.
Ouais.
Mais je trouve ça génial de
Je voulais faire un podcast, en fait, au début avec ce personnage-là. Mais je pense que c'est quelque chose de physique qui est drôle aussi. Tu sais, la face, elle est fun. Fait que je sais pas c'est quoi la meilleure plateforme pour ce personnage-là. Parce que je veux pas qu'il disparaisse non plus, je veux pas que ça s'arrête là.
J'adore. Juste la façon de parler, je crois que c'est aussi le fait que ça se moque un peu de la France, qui est un truc qui marche excessivement.
C'est ça que je me demandais, tu sais, c'était quoi vous le rapport avec ça? Je me demandais justement même si un Français trouverait ça drôle, tu sais.
Ben là, il faudrait que je le montre à un Français pour savoir, mais clairement ce personnage-là en Belgique, c'est un carton, j'en suis sûr. Certain.
C'est qui tu vois, tu sais, comme c'est qui les Français que tu vois dans le personnage, tu sais?
Moi, c'est Gérard Depardieu.
Ouais, ok,
je vois mille fois Gérard Depardieu là-dedans. Quand il y a des émissions où il parle de bouffe, c'est vraiment ça, c'est mais ça c'est bon, ça, allez. Enfin, je suis pas du tout bon accent.
Non, mais je comprends quand
même. Il est un peu grossier comme ça, mais très. Un peu prétentieux et en même temps sûr de lui dans ce qu'il dit, c'est grossier, c'est. Et c'est moi je vois vraiment ce personnage là.
Il y avait du Gainsbourg dans l'inspiration aussi quand même.
Ouais, je vois.
Mais c'était vraiment Depardieu puis Gainsbourg mes deux modèles. Depardieu pour la dégaine puis Gainsbourg dans le côté toujours sexuel dégueulasse. C'était vraiment ça. C'est que le côté sexuel faisait complètement partie du personnage à la base, puis là il est pas là. Donc ben dans le clip celui je croise Arnaud une fois ou deux là, t'sais. Je drague Arnaud.
Oui. Dans les petites notes, croiser, draguer.
Exact. je me demandais si le personnage pouvait bien vivre sans l'aspect sexuel dégueulasse, parce que c'était ça qui était drôle, c'est que les poèmes étaient de plus en plus graphiques, mais pas le bon côté du graphique. Fait que bref, mais je suis content que tu me dises ça.
C'est bien je mettrai le lien vers la vidéo du cuisinier français. Tu le refais aussi avec les enfants qui
font
le... Ça me fait
parce qu'il y a une émission au Québec qui s'appelle Les Chefs.
Oui. Qui est top chef chez nous.
Ça doit être un concept assez universel. Bon, ouais. Fait que, mais là, on faisait les chefs juniors. Fait que là, je juge des plats d'enfants. Ouais.
C'est de la merde. Ah, qu'est-ce que ça me fait? Vraiment, j'adore ce personnage.
Ah,
je pense que c'est clairement établi.
Merci beaucoup.
On peut passer à autre chose.
Yes.
Mais on va revenir à l'École nationale de l'humour, donc tu fais la tournée des finissants. Et d'ailleurs, ce vendredi, tu vas toi-même faire des retours sur les numéros des deuxièmes années à l'École nationale.
Hey, non, mais là, t'as-tu craqué mon téléphone? Qu'est-ce que t'as fait?
Non, je connais juste des élèves de deuxième année de l'école.
Wow. Mais ça, c'est drôle en plus parce que, petite anecdote, c'est juste que j'ai croisé des élèves. C'est Stéphane Maillé qui fait la mise en scène. C'était Stéphane Maillé qui est leur prof, qui était aussi notre prof à cette même étape-là quand j'étais à l'école. Fait que pour ça, c'est lui qui m'a appelé pour que j'aille faire ça. Mais c'est juste drôle parce que j'ai croisé des étudiants dans une soirée d'humour, j'ai recommencé à roder des jokes, puis là j'avais croisé des étudiants qui étaient comme « Ah, tu vas venir donner tes commentaires? » Puis j'étais comme « Non. » Non, c'était il y a deux semaines, mais ça, là. Comme « Non, je sais pas. » J'étais comme « Ouais, Stéphane nous a dit qu'il était appelé, là, puis que t'allais venir donner des commentaires. » Puis j'étais comme « Quoi? Stéphane? Non, jamais la vie! » Puis genre une semaine après, Stéphane « Hey, salut, écoute, j'étais sûrement occupé. » Fait que clairement, Stéphane leur avait déjà vendu l'idée bien avant qu'il me le demande. J'étais comme « Ça, c'est drôle, là. Stéphane Asti qui se la joue big parce qu'il dit qu'il me connaît. » Ok, c'est drôle, mais je vais le faire, ça va me faire plaisir.
Mais ça te fait pas bizarre de te dire que t'es un peu passé de l'autre côté, de celui qui peut apporter quelque chose aux élèves, que toi-même t'étais élève avant?
Je trouve ça extraordinaire, en fait, je m'étais déjà dit que j'aurais aimé ça donner le cours de réseaux sociaux, tu sais, donner un cours de réseaux sociaux à l'École de l'humour. Puis je m'étais toujours dit que quand je serais entre deux one-man shows, j'aurais le goût d'aller faire... donner le cours le cours principal de création en fait là, tu sais, parce que de manière ça fonctionne, c'est que les trois premières sessions tous les vendredis doivent écrire des nouveaux numéros, puis un prof qui chapeaute ça puis qui brainstorm avec les étudiants une demi-heure le lundi avec chacun des étudiants, voir où c'est qu'il est rendu dans son écriture puis tout ça, puis l'aider puis l'épauler, puis le vendredi donner les commentaires puis tout ça. Je me suis dit qu'en deux one man shows, quand j'aurais assez d'expérience, si je pouvais faire ça, j'aimerais vraiment ça, parce que j'adore brainstormer, j'adore l'aspect créatif, j'adore le fait que l'École de l'humour, c'est justement un monde où il y a autant quelqu'un qui écrit de l'absurde, quelqu'un qui fait du personnage, quelqu'un qui fait du stand-up pur. Fait que de pouvoir travailler avec tous ces gens-là, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis je le sais ce que t'as besoin comme support venant d'un prof, tu sais. Fait que de pouvoir donner ce support-là, j'aimerais ça un jour, à un moment donné. Fait que ça va déjà être un petit...
aperçu.
Un petit peu de ça vendredi. Ouais, je trouve ça cool, en fait.
Mais je trouve ça super cool, et en même temps, je me dis, si je suis un humoriste de l'École nationale, ça me stresse beaucoup de jouer devant les humoristes. Parce que que j'ai très envie que les humoristes que j'apprécie apprécient ce que
je fais. Mais t'as complètement raison. C'est sûr, je me projette, puis je me dis, mettons, Simon Gouache était là pendant que je faisais un vendredi, j'aurais eu shake en estime, puis j'aurais voulu que ce soit un bon vendredi, là, tu sais. Ouais, j'avoue, j'avais zéro pensé à ça. En fait, moi, juste égoïstement, je me disais, ça va être vraiment nice de pouvoir brainstormer avec eux autres, mais je comprends ce que tu veux dire, t'as raison. Mais je pense pas que je suis intimidant en tant que ça, là. T'sais, je suis un jeune humoriste, là. T'sais, je suis pas justement Louis-José ou Simon Gouache, là. Je pense pas que tous ces humoristes-là,
ça... Quand je t'ai vu en Belgique, je me suis quand même dit, quand j'étais sur le même plateau que toi, j'ai dit à ma blonde, je suis sur le même plateau que Pierre-Yves
Roy-Desmarais. Ah, ben ouais,
il faut que... Faut que ça se passe bien. Et là, c'est un thème imposé. Ok. Donc en plus, jamais fait. Première fois que je fais un thème imposé. D'habitude, c'est toujours, comment t'écris tes jokes à toi, c'est par rapport à ce que t'as vécu. C'est la première fois que je faisais avec un thème imposé. Ouais. Je fais ok, super, bon défi. Et après, on rajoute Pierre-Yves Roy-Desmarais à la question. Ok.
C'est tellement drôle. Parce que moi, ce que j'aime de l'idée d'aller à l'École de l'humour, c'est que je me vois comme one of the boys. Là, tu sais, je me vois dans la gang, puis on va brainstormer des affaires. Je me vois pas comme un humoriste intimidant. Non, et quand tu le vois sur le line-up, t'es comme...
Non, mais tu m'as mis à l'aise directement quand on s'est parlé. Je me suis dit, parfait, super, il est sympathique. Mais la fois où je t'avais vu juste avant, c'est à l'Olympia. Tu vois ce
que je veux dire? Ouais,
devant un spectacle qui me fait mourir de rire. Je me dis, j'espère au moins qu'il va rire à un moment donné, ou qu'il va dire, c'est correct, tu vois. Je veux dire, tu vois quand il y a un humoriste, tu te dis, il y a un potentiel, il y a quelque chose, ça me fait rire. Ou... Je comprends pas la proposition tout. Ça s'est bien passé. Le passage s'est bien passé. Mais tu vois, le fait que tu sois sur la line-up, ça me rajoute un petit stress.
C'est drôle, ça.
Mais ça s'est bien passé.
Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, ton podcast en ce moment, ça se passe.
Mais voilà. Merci. Merveilleusement, mais je me dis quand même qu'il faut que j'avance dans les informations pour ne pas te mettre en retard. Donc je vais avancer. Non, c'est très bien. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce prof-là, il me semble.
Stéphane,
qui avait dit dans ton numéro de fin de session, c'est cool. Mais on n'a pas encore mis le doigt sur...
Ouais.
Il manque quelque chose, il manque un peu de folie. Comment t'as réussi à trouver cette folie-là?
C'est malade que tu parlais de ça. J'avais le goût de parler de ça, mais évidemment que tu savais ça parce que t'as accès à mon cerveau, on dirait. C'est que c'était pas... Oui. Stéphane, ben, tu sais où j'ai dit ça? Où c'est que t'as entendu ça?
J'ai du temps qui discute. Très bon podcast.
Oui, j'en ai
très
dit bon des affaires.
Mais oui, Stéphane m'avait dit ça, puis ça m'a marqué, puis parce que t'as comme des rencontres avec les profs à la fin de ton parcours à l'école, puis tous les profs te donnent un peu leurs commentaires de ta progression, de les impressions qu'ils ont de toi, de tout ça, tu sais. Puis tous les profs avaient été vraiment gentils, tu sais, je me rappelle de Alexis qui m'avait dit j'ai vraiment zéro inquiétude pour toi, ça va bien se passer, nanana, je te trouve vraiment talentueux, puis ça fait c'est vraiment gratifiant, tu sens que les profs se soucient de toi, c'est très humain là, l'école de l'humour, fait que tu sais c'est ça donne confiance là, tu sais, tu te dis yes, tu sais, les profs croient en moi, puis ils me donnent des commentaires, puis c'était que positif. Puis lui, c'était positif aussi, Stéphane. Mais il m'avait dit, tu sais, c'est le fun, oui, t'es bon, là. Mais c'est pas encore... Je le sais que tu as le potentiel. On n'a pas encore touché à la folie de Pierre-Yves. C'est ça qu'il m'avait dit. Il avait utilisé le mot folie. Puis j'étais encore dans la phase de transition entre le côté cérébral, le côté stand-up pur vers ce que je suis aujourd'hui. Puis lui, il voyait déjà ce potentiel-là de « Oui, oui, c'est bien le fun, là, tes jokes bien structurés, ah, tes jokes méta, des idées originales, nanana. C'est le fun, tout ça, mais si tu peux utiliser tout ça puis injecter la folie que je te connais, ça va être encore mieux. » Puis c'est ça qui m'a dit, puis ça m'avait brassé, tu sais, parce que j'avais l'impression d'être sur la bonne voie, puis je l'étais, mais c'était parfait parce que ça m'a toujours resté en tête. Fait que dès que je voyais l'opportunité de rendre ça plus fou, d'amener ça ailleurs, puis de faire rire du ventre, pas juste de faire rire de la tête. Ben, je la prenais, cette opportunité-là, puis c'est entre autres grâce à ce que Stéphane m'avait dit, tu sais.
Okay. Mais comment t'as réussi à te déjeuner et arriver à le faire? Parce que personnellement, c'est un truc que j'aimerais que ce soit un peu plus fou. C'est souvent ce que ma blonde me dit, c'est que je suis plus fou dans la vie que ce que je suis sur scène.
Ouais.
Elle me dit pas que je suis pas drôle, sinon je serais en train de pleurer.
Ouais.
Mais elle me dit que ça pourrait être plus fou. Ça reste très calme. Je me reconnais dans ce que tu dis.
Ouais.
Et j'ai vraiment envie d'injecter plus de folie, mais...
Je comprends complètement le struggle. Je vivais exactement la même affaire. Puis je sais pas exactement quand, mais je sais que la pandémie, ça a changé beaucoup de choses pour moi. D'arrêter de faire des shows puis de me filmer à faire des jokes, ça a changé beaucoup de choses parce que je me mettais à faire des tunes beaucoup sur Internet, puis je voulais rendre ça drôle, puis un peu le mécanisme d'autodéfense de, je sais pas, je me suis mis à être plus physique, la confiance aussi de, il y a des gens qui viennent me voir, fait que je sais pas, il y a plein de facteurs, j'ai l'impression, puis je pense même le rodage du show, je pense que si je revisionnais le premier rodage du show tel qu'il est là, ça n'a rien à voir, je suis convaincu, tu sais. Tout le côté courir, traverser le stage en courant, donner les coups de pied, puis en buvant de l'eau comme si j'étais un athlète, pas mal sûr que ça existait pas à ce moment-là, ou très peu. Puis le fait d'avoir de l'espace, d'avoir un gros stage, d'avoir le désir de l'occuper au complet, puis d'avoir la confiance qui vient avec « Hey, il y a 300 personnes en ce moment qui sont là pour moi, puis je suis pas à Montréal à côté de chez nous, puis j'ai bûché, je suis genre assis à Rivière-du-Loup, là, tu sais, c'est malade! » Fait que ça m'a clairement donné une confiance qui m'a fait y aller all-in, tu sais. Quand je voyais que ça commençait à rire, quand je faisais telle niaiserie, ben là, « Ah oui, c'est bon, tu sais, creuse, continue là-dedans. » Fait que, puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que en ce moment, j'essaie des nouvelles jokes, puis je revis le même pattern, tu sais. Où les premières fois que je le fais, je sais que ça c'est drôle, puis je le fais, puis j'ai un peu moins confiance parce que c'est des nouvelles jokes, puis j'explore un peu, puis là, juste des avoir faites, mettons, 15 fois, là, c'est rendu complètement zouzou, là. Il y a un bit là-dedans qui c'est un liner, mais il dure 3 minutes parce que je joue comme un cave, puis je me retourne de dos au public, puis c'est vraiment en refaisant le même chemin de... Ça part d'une idée, oui, mais il faut que je me permette de la vivre puis de prendre confiance en cette idée-là, puis en moi, puis en mon corps. Ça a été un long processus, pas un déclic qui est venu tout de suite, mais je peux regarder derrière puis me dire que c'est un moment-là où Stéphane m'a dit ça, ça m'a ouvert la porte à ce que c'est aujourd'hui, tu sais.
OK, donc et réfléchir à comment ajouter de la folie dans les numéros, essayer de le, par petits bouts, de rendre ça plus fou.
Ben, tu vois, ça a été l'inverse de le réfléchir, ça a été l'instinct qui m'a amené là, tu sais. Justement, quand je me filmais puis je voulais rendre ça plus drôle, je voyais aussi, tu peux lire les commentaires sur la vidéo, il me fait rire quand il bouge. C'est vrai que si j'avais pas pensé à ça, là, j'avais juste bougé. Fait que là, tu sais, ok, mais si je fais, ah, j'avoue que si j'accentue ça, puis
C'est vrai que dans les même dans les chansons, quand tu regardes les 8 chansons du premier album, ouais. qui s'appelle Chanson l'album,
ouais.
Tu vois que la première vidéo est beaucoup plus calme et moins foufou ouais. que le deuxième album,
ouais.
où tu commences à
les
faire
tunes, le bye-bye. Les
trépieds en sautant exact. Dans ton salon.
tu regardes le premier bye-bye, puis la première tune, c'est deux affaires complètement différentes. T'sais. Fait que, c'est ça. Il y a vraiment c'est vraiment l'instinct qui m'a amené là, en fait. T'sais. Puis, c'est ça.
Je t'avoue que je suis un petit peu en stress au niveau du temps, ah, parce que je vois que je n'avance pas beaucoup dans le temps, mais je trouve ça intéressant ce qu'on raconte.
Ben, donc, c'est ça, donc il n'y a pas de problème.
Là, je vais essayer de
continuer à ton rythme.
Non, mais j'ai un don pour mettre tout le monde en retard, hein, faut le savoir. Donc...
Ok.
j'ai déjà fait presque failli rater un train à un humoriste qui s'appelle Baptiste Le Caplain en France.
Okay.
Il y a un spectacle qu'on a enregistré avec Shirley Soignon, où on a enregistré avant son spectacle, après son spectacle, puis la salle nous a dit, ben, on va fermer, donc on a été enregistré ailleurs. Je sais qu'il faut que je fasse attention à ça, et pourtant, je n'apprends pas de mes erreurs.
Non, mais moi, je suis arrivé 10 minutes en retard, fait que tu peux buster mon temps de 10 minutes, ça me fait plaisir.
Mais continuons du coup. Louis Morissette assiste au show des finissants de l'école et aime beaucoup ce que tu fais. Il te propose de passer les auditions pour les émissions qu'il produit, ce qui fait que tu vas intégrer l'émission Alt, dans laquelle tu fais des chroniques. Tu l'animeras l'année suivante avec plus de sketchs. Tu participes à l'émission Mais il paquet, Codgé, 14 millions de choses à savoir, la semaine des 4 juillet, la Star Academy même. Est-ce que tu aimes travailler à la télévision et quelle importance ça a dans ta carrière?
J'aime beaucoup ça. Ben, tu sais, c'est toutes des affaires très différentes. Tu sais, 14 000 millions de choses à savoir. C'était vraiment une gig d'animation et de comédien. Mais j'étais impliqué dans le contenu. Fait que le spectre était vraiment large, tu sais. C'est autant de l'animation devant une caméra tout seul, enligner des infos, que jouer dans les sketchs, mettre des perruques, tu sais. Mm-hmm. Puis faire des chroniques comme à la semaine des 4 juillet ou à Bonsoir, Bonsoir. Ben là, t'es devant le public. Fait que là, c'est des affaires complètement différentes, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ça varie beaucoup. Ce qui est moins le fun, c'est que le milieu de la télé, c'est compliqué, tu sais. Quand t'écris des affaires, c'est parce que j'aime toujours être impliqué dans l'écriture de mes trucs. Fait que quand je faisais des chroniques, mettons, j'aurais voulu faire toutes les gigs, mais là, ils disaient, ah, ben, on va te faire écrire les sketchs par, on a des auteurs. Puis j'étais comme, non, je peux pas faire ça, je veux vraiment écrire mes trucs. Mm-hmm. Puis, ça fait que, après ça, ben là, tu t'impliques dans les étapes plates. Parce que là, t'écris, puis là, t'as le feedback. Puis là, tu te frustres parce que t'es comme, mais ouais. Cette joke-là, voir qu'il faut la couper, c'est niaiseux, elle est super bonne, c'est pas vulgaire, c'est pas... Puis là, fait...
Oui, c'est l'inverse complet de quand tu fais du stand-up où c'est toi qui choisis.
T'as la liberté totale. Exact. Puis quand t'es un comédien dans une série télé où t'es pas impliqué dans l'écriture puis dans ces étapes-là plates de création, tu fais juste te pointer puis dire les niaiseries, ce que j'ai le plaisir de faire dans Complètement lissé, tu sais. Fait que c'est très différent, dépendamment de la gig, mais... C'est le fun parce que c'est des bons revenus. T'es pas stressé avec... Tu sais, le gig de stand-up, ça peut être très peu payant. Surtout à cette étape-là où on parle, tu sais, à l'époque de Alt pis tout ça, c'est mon revenu. Oui, j'étais un humoriste, mais mon revenu principal, c'était complètement les gigs télé. Puis ça t'amène une notoriété, tu sais, t'es soudainement dans un média de masse. Fait que plein de beaux côtés, mais t'as pas la liberté que t'as sur scène. T'sais. C'est ça la différence. T'sais.
Mais est-ce que tu penses faire encore de la télé?
Ah oui, ben oui. Moins, c'est sûr. Tu sais, je choisis plus ce que je veux faire.
Mais t'as l'occasion de pouvoir choisir, donc autant faire des trucs...
Exact. Puis, ce dont je suis content, c'est que souvent, à ce temps-ci de l'année, il y avait comme une nouvelle gig qui rentrait en télé. Puis là, il y avait toujours un stress de « Ah oui, il faut que je remette... » Comme un devoir, tu sais, il faut que je remette tel texte pour qu'ils me redonnent leurs commentaires pour que telle affaire. Alors que sur scène... J'ai jamais ce sentiment-là que jaillit de « Ah, je dois quelque chose à quelqu'un. Mm. » Puis là, j'ai aucun contrôle sur s'il va aimer ça ou pas. T'sais. Sur scène, tu l'écris, puis tu as confiance parce que tu sais que tu vas le livrer, puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu le coupes. Il n'y a pas de devoir.
Mais c'est un devoir envers toi-même
exact.
Plus qu'envers quelqu'un d'autre.
Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Fait que la télé, ça va toujours faire partie, oui, mais je vais plus... J'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je fais. T'sais.
Ok. Ah, on revient à ton parcours. En 2017, tu vas jusque la finale du concours de En route vers mon premier gala,
mm-hmm.
Qui était l'émission que tu regardais. Donc maintenant, tu es dedans. Je trouve que c'est déjà trop cool.
Ouais.
Tu fais des blagues sur tes parents, on rigole bien. Des blagues sur les Français, j'adore.
Mm-hmm.
Puis là, c'est le drame. Les Belges sont laids. Merci.
Ah ouais, elle est bonne,
cette joke. Je la remets dans le spectacle.
C'est vrai, j'avais oublié que je faisais cette joke-là. Mais c'était toutes des jokes que j'avais écrites en voyage en France. Fait que là, j'avais un petit liner sur les Belges.
C'est gentil, puis, c'est gentil de nous avoir appliqué. Ouais. Déjà, j'aime bien. Après...
ah, <voilà. rire> Non, mais je pense que ce qui est drôle, c'est pas tant... Tu sais, j'aurais pu dire...
Les Suisses
sont laids. Ou j'aurais pu dire whatever, quoi. Les Finlandais sont laids. Ce qui était juste drôle, c'est de généraliser. Genre, ah ouais, la France, ouais, c'était cool. Les Belges sont laids. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment drôle.
Oh, hein.
C'est tout ce que t'as remarqué de ton voyage. Puis là, c'est genre, y a-tu des... Non, dis-le pas, je veux pas voir la face. Dégueulasse. Fait qu'il y a quelque chose de drôle qui me faisait rire dans la... C'est gratuit, puis c'est une grosse généralisation. Fait que, puis j'imagine qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était ancré dans quelque chose de vrai, donc il y avait quelque chose.
Mais j'ai ri parce que justement on a l'autodérision dont tu parlais.
Exactement.
Tout à l'heure, mais ça m'a fait rire. Mais après j'étais content d'être impliqué dans.
Yes.
Parce que c'est vraiment un truc qui m'ennuie à Montréal. C'est sur tous les shows on demande s'il y a des Français.
Jamais ça.
Et moi je réponds jamais parce non. que je suis pas français.
Ouais.
Et après. Personne ne pose jamais la question sur les Belges.
Ouais.
Ah, mais on est là, on existe.
Exact. Puis là, si t'as le malheur d'interagir avec l'humoriste sur scène, puis là, il entend ton accent, il va faire hey, t'as pas applaudi tantôt, t'es français.
Non, je suis pas français. Oh, c'est la même chose. Ah, ça, c'est le pire truc.
Ouais.
Parce que c'est pas une insulte de dire que tu es français, mais c'est juste, tu es d'un autre pays, une autre culture.
Complètement. Puis je pense que ça a quelque chose. Clairement, on doit avoir ça en commun parce qu'on est le petit frère de la grosse machine, tu sais. La France, tu sais, la terre promise. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'on a ça en commun, l'autodérision, le côté absurde, tu sais. Eux, ils ont pas à être introspectifs et à rire de leurs défauts. Ils sont la terre promise, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait qu'on se rejoint sur cette culture-là. Mais vous le vivez. 1000 fois plus parce que vous êtes collés
juste à côté
dessus, ouais, tu sais.
C'est clair. Et en plus il y a toutes les dimensions football qui s'ajoutent à ça, mais on va pas parler de souvenirs douloureux. On est laid.
Vous êtes pas meilleurs, mais ils ont perdu en finale.
Oui, mais on a perdu en demi-finale contre eux 1-0.
Ah, c'était ça, ok.
C'était ça, c'était horrible.
Mais moi je pensais que vous étiez
Ah, on est meilleurs, mais on a perdu quand même.
Ah, c'est ça, ok.
Donc tous les Français qui vont écouter ça vont dire ouais, bien sûr. Nous on a 2 étoiles. Ok, ça va, on va arrêter avec ça.
Ouais, parfait.
Après la même année, tu joues le spectacle donc Love avec Rosalie Vaillancourt dont on a parlé tout à l'heure. À l'automne, Michel Grenier devient ton gérant. Pourquoi avoir signé avec lui plutôt qu'ailleurs?
Les menaces, pas le choix. Parce que Michel, c'est le meilleur, sincèrement.
Il fait des magnifiques photos aussi.
Oui, il prend des tabarniches de belles photos. Mais ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé d'être son artiste, puis il va prendre des photos de toi pareil. Il prend les photos de tout le monde, puis il les envoie. Il est juste vraiment smart. Gentil. Smart égal gentil. Pourquoi Michel? Parce que c'est le meilleur, puis ça a cliqué. Il est tellement drôle, tu sais. Puis ce qui est bien, c'est que... Je sentais vraiment qu'il aimait ce que je faisais aussi. Je m'étais fait approcher par beaucoup de boîtes, puis souvent ces gens-là m'avaient vu une fois en show. Michel, il m'a vu 7-8 fois avant de me dire qu'il aimerait ça qu'on travaille ensemble. On s'était croisés à Comédia, on avait été au bar après prendre une bouchée, puis on avait jasé toute la soirée, on avait ri comme des fous avec Sam Boisvert. On était déjà quasiment devenus amis avant qu'il me propose de travailler avec moi. Puis lui, il voulait voir si humainement ça fonctionnait. Puis il est venu me voir en show plein de fois. Puis Michel, il va voir toutes les shows, tu sais, comme il est toujours au bordel, il se tient les soirées d'humour, il se tient au courant de ce qui se passe, il va à l'école d'humour, il va voir les shows de l'école d'humour. Fait que t'es au courant de tout ce qui se passe. Fait que s'il te demande à toi de travailler avec toi, c'est parce qu'il a fait ses devoirs puis il veut vraiment travailler avec toi, tu sais.
Moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai été voir le show de Mike Ward,
mm-hmm.
et je vais dire bonjour à Mike Ward, et je dis bonjour à Michel, et je dis, ah, je m'appelle Régis Canon, je suis Maurice Bell. Ah, tu m'as envoyé un mail,
ouais.
Tu écoutes mon podcast, il est au courant de tout.
Oui, puis il est humain, ouais. Tu sais, comme... Ouais,
il se rappelle que je lui ai envoyé le message.
Exact. C'était pas comme juste un numéro, là, tu sais, c'est vraiment... Il fait quelque chose de vraiment humain dans l'approche de Michel, puis je suis le dernier artiste avec qui il a signé, là, tu sais, ça fait 6 ans, là, tu sais. J'étais de un flatté parce qu'il a une bonne réputation, parce qu'il a fait ses devoirs. Tu sais, tous les autres m'avaient vu une fois, puis ils me signaient, puis ils me promettaient un avenir. Mais ils ont des connexions avec Juste pour rire. T'sais, tout le monde t'a fait miroiter toutes sortes d'affaires. Puis Michel m'a rien fait de miroiter jamais. T'sais, lui aussi, il voulait être sûr que ça fitait pour lui. Là, t'sais, il voulait pas se faire chier avec un petit prétentieux qui, tu sais, genre, il voulait que ça clique. Ouais, fait que c'était un no-brainer.
Après, tu fais des romans radio avec Alexandre Forêt et Coco Béliveau, avec les épatantes aventures radio-romanesques.
Ouais.
Puis en avril 2018, tu joues 2 fois 45 minutes avec Sam Boisvert avec le show Frères et Sœurs. Tu joues au Zoufest ta première heure, ton premier spectacle qui s'appelle Bonjour, qui est coup de cœur du jury au festival. Est-ce que c'était un gros accomplissement pour toi d'avoir ton premier show, ta première heure?
Ah ouais, vraiment. Ça, écoute, j'ai eu l'impression de vieillir, ou en tout cas de mûrir de 5 ans juste en cet été-là. Là, juste d'avoir fait mon show, je pense que j'ai fait 6 fois, genre quelque chose comme ça. Ça m'a tellement procuré de bonheur de faire exactement ce que je voulais faire devant des gens qui voulaient venir me voir. Je me rappelle flotter, là, tu sais, j'étais tellement heureux à la fin de cette Zoofest-là. Ça, ouais, ça a été vraiment une expérience formatrice aussi. Fait que je garde vraiment un excellent souvenir de cette première expérience de show solo.
OK. Et est-ce qu'il y a des jokes qui faisaient partie de ce spectacle qui sont maintenant dans ton spectacle?
Ouais. Ouais. J'essaie de me rappeler lesquels, mais je sais qu'il y en a. Le chien, c'est là-dedans. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais définitivement, les chiens. Peut-être les pizza pochettes. Non, c'était l'année d'après, les pizza pochettes. Ouais, c'est peut-être juste les chiens, finalement. Mais
un petit pourcentage, en tout cas.
Mais oui, il y a des affaires qui étaient là.
Après, en 2018, tu participes à ton premier gala Juste pour rire, dans le gala Carte blanche de Pierre-Luc Fong. Ton premier festival comédien à Québec, dans le gala de Philouroy.
Oui.
Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que ça t'a fait de faire ton premier gala? Parce que quand tu tripes sur l'humour, faire son premier gala, c'est quelque chose.
Ouais.
Moi, de juste aller au festival Juste pour rire, je serais déjà super content.
Ouais.
Mais si je peux y jouer un jour, c'est le trip par excellence.
Ouais, ben écoute, c'était vraiment big, aussi big que ce que tu décris là. J'étais pas si longtemps avant, on me filmait dans la salle parce que j'étais dans le public, puis il y avait une caméra sur moi, puis mon père, puis on riait. Fait, j'étais. De me voir sur scène, soudainement, c'était vraiment gros. Là. Je me rappelle, cette journée-là était extrêmement nerveux. Le gala Juste pour rire a été correct. Je te dirais, ça a vraiment été correct. Puis le gala Comédia, c'était malade. C'était vraiment le fun. J'avais gardé mon meilleur numéro pour le gala Comédia aussi, il faut le dire. Parce qu'il avait été les premiers à me proposer.
C'était quel numéro, celui-là?
C'est deux numéros qui sont dans le show en ce moment. En fait, c'est deux bits collés. Le bit de mon prof de musique au cégep, qui était gelé. Puis l'anecdote du cours d'éducation sexuelle où je suis gêné d'aller poser une question. Là, tout ça. C'est dans mon matériel le plus straight, parce que c'est des anecdotes. Mais c'était ça, mon premier numéro de gala. À cette époque-là, Comédia était avant Juste pour rire aussi. Comédia, ça avait été vraiment le fun.
Moi, j'ai eu ça avec la première fois que j'ai joué au bordel. J'ai eu le fait d'être au bordel.
Ouais, incroyable. T'es nerveux?
Ben oui, du coup, c'est pas mon meilleur show, j'ai fait ma meilleure performance, je dirais.
C'est sûr.
Mais parce que je suis monté sur scène, je faisais ma première blague, j'ai fait une blague au bordel.
Ouais,
dans ma tête, c'est j'ai fait une blague au bordel.
C'est grave,
mais ils ont ri, il y a des gens qui ont ri au bordel, tu vois. Double lecture, t'es pas à fond dans le moment de tout ce que tu fais, c'est.
Exact.
Oh, j'ai fait des blagues au bordel. Ouais, je suis sur la tête du bordel. Là, c'est le bordel.
Ouais.
Ah, bordel. Donc, c'est un peu le je pense un peu comment tu pouvais te ressentir aussi
complètement. Oui, exact.
Après, en septembre 2018, tu reprends l'animation des Mardis du Rire à Longueuil. Et moi, j'ai besoin de savoir, parmi toutes les scènes que tu as fait depuis le début, quelle serait la meilleure et la pire?
Vraiment dans les soirées d'humour où tu parles tout. En général tout. La meilleure et la pire?
Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te vient direct quand
le meilleur, tout de suite, on dirait que je pense au Boc et Bière à Sherbrooke. C'était une soirée d'humour organisée par Sam Tétrault. Sherbrooke, j'ai vraiment une relation particulière avec la ville de Sherbrooke. Toutes les shows que j'ai faites à Sherbrooke dans ma vie étaient extraordinaires, autant les soirées d'humour que mon show à moi. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans la ville étudiante, peut-être, je suis toujours content d'aller là, mais ma sœur habite là. Il y a quelque chose, c'est toujours une soirée spéciale quand je vais à Sherbrooke. Puis particulièrement cette soirée-là, je pense que j'ai dû faire 6 fois, mettons, la soirée d'humour. Puis c'était 6 shows écœurants à chaque fois, c'était malade. Fait que quand était le temps de, justement, dans le temps du Zoofest, quand je voulais faire mon show solo ailleurs, ben, je l'ai loué le Boc et Bière, j'ai fait mon show là une ou deux fois, puis c'est des soirées magiques. C'est vraiment le Sherbrooke qui me vient en premier. Puis dans les pires, ben, c'est dur à dire. C'est parce que t'en fais tellement des shows de cul quand tu commences. J'ai fait un show devant, genre, 2 personnes, dont le propriétaire pis sa blonde, dans un café, genre, à 6h le soir. Tu sais, c'est une heure qui a pas rapport, dans un endroit qui a pas rapport. C'est ça, les pires, je te dirais, là. C'est ma réponse, je pense.
En janvier 2019, tu joues le rôle de Pinson au gala des 30 ans de l'École nationale de l'humour.
Pinceau.
Pinceau.
Ouais. Un peu de respect pour
Pedro. Un peu de respect pour ton œuvre. Ouais. Mais ça m'a beaucoup fait. J'aime beaucoup ce sketch.
Ouais. C'était un numéro que j'avais fait à l'école de l'humour, en fait. Ouais. Mais c'est parce que c'était les 30 ans de l'école. Fait que là, c'était comme les célébrations. Puis là, ils font toujours un numéro où il y a des auditions. Fait que là, c'est comme une belle manière de montrer plein d'anciens finissants de l'école de l'humour. Là. Fait que là, ils mettent plein de monde là-dedans. Puis moi, je venais juste de sortir de l'école. Fait qu'ils m'ont mis là. Puis j'ai fait un de mes numéros que j'avais fait à l'école de l'humour en version courte, là, une minute, qui était Pinceau, le roi de l'humour de Belœil.
Mais qui est déjà un personnage très physique, au final. qu'on retrouve des mouvements de danse que tu replaces dans les chansons.
Exact.
On voit un peu. Il y a déjà
ça. Je sais.
Il y avait déjà ça. En plus fou.
Ouais, mais c'était pas moi-même.
Ok, ouais.
Tu comprends? C'est comme si.
Oui, c'était plus facile de. Ouais, c'était un personnage. Oui, c'était pas moi. Il est fou, c'est le personnage.
Exact. Okay. Puis ça, c'était au début de mon parcours en plus. Hein, mm-hmm. C'est comme si Pinceau était la version pas gênée de moi. Puis c'est le chemin que j'ai fait pour aujourd'hui ressembler énormément à Pinceau. Puis j'ai gardé les qualités de quand j'écrivais du stand-up. Parce que c'est des. Tu sais, Pinceau, la joke, c'est qu'il fait des jokes pas drôles, puis qui est full physique, puis il assume, puis. Il joue de la musique, puis c'est dégueulasse. C'est fait que ce côté-là a ressurgi, puis je pense que c'est le côté que Stéphane voyait en moi, qui est un potentiel que j'utilisais pas quand je faisais mon stand-up, puis j'ai fini par utiliser ces deux aspects-là. Là,
tu es devenu Pinceau.
Ouais, il y a quelque chose, il y a une analyse à faire avec ça. T'sais. Il y a une partie de moi qui est Pinceau.
Ok.
Ouais, il y a une partie de moi.
Ça marche. Mais ouais. Du coup, je vais mettre le lien vers le sketch, sinon les gens vont être là. Ok, c'est quoi? Regardez le sketch.
Très bon sketch. De lui qui est Pinceau, c'est de quoi qui parle. Ouais.
C'est ça. Après, tu as étonné pas mal de monde, moi compris, en remportant l'émission Bros Battle. Pas parce que t'es pas drôle, mais parce que je t'attendais pas dans ce registre-là.
Ouais.
Parce que t'as un humour assez gentil.
Ouais.
Je pense qu'on peut le dire. Mais là, t'avais vraiment fait des jokes violentes et noires sur Jean-Thomas Jobin, Mehdi Boussaïdan, Mélanie Couture, et bien sûr sur Francky en finale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission? Et est-ce que ça a été un exercice difficile pour toi d'écrire ce style d'humour?
Très difficile, ouais. Au début, en fait, c'était des auditions pendant le festival de Comédia. Mm-hmm. Puis évidemment, une tribune, une gig télé où... on me voit faire des jokes, comme évidemment, je réfléchis pas, je dis oui, tu sais, je veux faire l'audition pour ça. Ça s'est super bien passé, j'étais avec Pascal Cameron, c'était un beau moment, là, on a vraiment ri, c'était vraiment un beau moment. Fait que j'étais vraiment content quand ils m'ont appelé pour faire la version télé. Puis, la première ronde avec Jean-Thomas, j'ai aimé ça, j'ai quand même aimé ça parce que j'ai écrit mes jokes d'avance, tu avais le temps, tu sais, c'était comme il te le disait un mois d'avance. Puis là, la deuxième personne, c'était genre, faut tu sois prêt pour le soir même, en fait. Tu sais, comme la deuxième ronde est tournée le soir même, fait que t'as une soirée de temps pour écrire ce que t'as fait en un mois, tu sais. Puis là, j'ai commencé à détester ça parce que là, tu te mets en mode « OK, où c'est? Ah, » Là, tu regardes les autres, puis là, il y en a qui sont compétitifs, il y en a qui veulent vraiment gagner, mais là, quand la caméra est sur eux, ils sont comme « Ah, ben oui, on est des amis! » Fait que ça devient comme malsain parce que là, tu te penses à comment je vais faire pour ramasser ce gars-là. Là, là. Mais là, moi, j'avais au début l'angle de je fais semblant de faire des compliments, puis finalement, ça devient méchant, puis tout ça. Puis cet angle-là a un peu pris le bord, puis tu fais juste à écrire de la saucisse, des jokes méchants. Fait que j'ai pas aimé ça. Les trois dernières rondes, j'étais pas bien, je voulais partir. Puis vraiment, en fait, puis Mehdi, je pense qu'il pouvait pas faire la finale. Fait que je me suis ramassé en finale, en fait, là. Je pense que c'est ça qui s'est passé un peu, là. Ils m'ont fait gagner, mais je sais pas à quel point je méritais de gagner. Là, peut-être, là, qu'ils m'ont fait gagner parce qu'ils ont trouvé que je méritais, mais moi, je trouvais pas, là. Puis bref, peu importe. J'ai haï ça.
OK.
Et l'exercice. Parce que ce que j'aime d'un roast, en tout cas aujourd'hui, c'est de rendre hommage un peu à la personne en riant des choses que tu sais que cette personne-là sait rire d'elle-même aussi, tu sais, comme si tu sais que cette personne est capable de rire de cet aspect-là.
Un peu plus comme vous le faites dans l'émission Prière de pas envoyer des fleurs.
Exact. C'est ce genre de vibe-là, un roast pour l'anniversaire d'un de tes amis, c'est le fun là, d'aller loin puis de ramasser cette personne-là en sachant très bien que c'est fait avec la camaraderie, mais là, l'aspect camaraderie disparaît dans le concept de roast battle parce que les gens veulent gagner puis veulent écraser l'autre personne, même s'ils l'avouent pas, tu le ressens. Fait que j'ai haï ça, ce bout-là. Puis j'ai pas tant aimé ça, puis tu sais, quand je repense aujourd'hui, il y a des jokes que je referais pas, tu sais, juste parce que c'est, je me dis, ah, c'est pour le jeu, puis il s'embarque là-dedans, fait qu'il va accepter même si je vais dans une zone dark, mais aujourd'hui je suis comme, toi tu vas avoir besoin, tu sais, de taper sur ces clous-là, tu sais, je sais pas. Fait que, parce que je le sais, il y en a qui gardent des séquelles là, après ça de Rose Battle, de, ça fait mal pour vrai, tu sais. Okay, même ouais. Si c'est un, pour la télé, c'est super personnel, tu sais.
Est-ce que toi, t'as eu des blagues qui t'ont fait mal?
Personnellement, non. Mais je le sais que j'ai pu faire des blagues qui ont fait mal, tu sais. Puis je referais jamais ça, tu sais. Puis ouais. Parce que je vois pas comment ça vaut la peine. Ce mindset-là, j'étais vraiment malheureux. Là, la troisième ronde, là, qu'il a fallu que j'écrive des jokes sur Mehdi, là, puis j'ai passé une journée complète à me dire comment je vais faire. Je le trouve bon, ce gars-là. C'est comme je voulais pas le ramasser. Puis que, je sais pas, il y a quelque chose de. C'était malsain, je trouvais. Puis, okay. Fait que j'ai pas tant aimé ça. Plus le processus avançait, moins j'aimais ça, en fait.
Ok.
Voilà.
J'ai trouvé que t'avais fait des bonnes blagues.
Ben, c'est super gentil. Non, mais tu sais, ça reste. Ça a été une belle vitrine. Puis il y a plein de gens qui m'ont découvert à travers ça. Parce qu'au final, tu finis par faire des jokes. Je vais pas aller dire des jokes que ça me tentait pas de dire. Enfin, mm-hmm. Tu sais, ça me tentait. Puis j'étais content. Puis j'ai trouvé drôle. Mais tout le processus pour se rendre là, mentalement, j'ai pas aimé ça.
Après ça, en 2019, tu présentes une nouvelle heure qui s'appelle Beau Bébé. Ouais. Puis en 2020, comme tous les humoristes, ben, tu dois arrêter les shows. Toi qui avais commencé des dates de rodage fin 2019, tu joues en moyenne 8 fois par semaine et là tout s'arrête. Tout d'un coup, arrêt complet, mais 4 jours après l'annonce du confinement, tu publies le 17 mars ta première vidéo qui s'appelle Travailleur autonome. T'as pas su rester plus de 4 jours sans travailler?
C'est fou, hein? Moi, dans mon souvenir, c'était vraiment long en plus, là. La période de temps entre l'arrêt de tout puis ma première vidéo.
4 jours.
Ben oui, parce que ça allait tellement vite, tu sais, comme tu dis, je faisais 8 shows par semaine, j'avais des gigs télé, ça c'est dans un rythme effréné, puis là, tout arrête d'un coup, fait que là, faut que tu fasses quelque chose. J'avais vraiment la pulsion de faut absolument que je fasse quelque chose maintenant, puis ça a été des vidéos de chansons.
T'as écrit, filmé 8 chansons plus drôles les unes que les autres. Moi, je suis vraiment très client des chansons. Il y a Mon chien comprend rien quand je parle, Les gens à qui je ne fais pas confiance, Vidéoconférence, C'est la pandémie, Le coronavirus c'est cool, BFF à distance, le premier album chanson dont on parlait tout à l'heure. Et après, t'as refait un deuxième album, t'as refait d'autres chansons. Parmi toutes tes chansons, t'as préféré? Moi, c'est Je t'aboute.
Ah ouais?
Je
peux
l'écouter 20 fois d'affilée, je ris, le clip me fait rire.
Nice!
J'aime beaucoup. Je t'aboute, je suis à bout.
Ah ouais!
Qui donne beaucoup moins bien. Mais...
Ouais, exact, c'est moins musical. Ben, ma préférée, musicalement, c'est peut-être... BFF à distance. Longtemps, mais ma préférée, c'est Ça va mal, je pense.
Ça va mal aussi, oui.
J'aime beaucoup Maman écrit, en fait. Je trouve que c'est peut-être ma plus bullseye, tu sais. Avec Ça va mal. En fait, Ça va mal est bullseye. Elle est moins musicale, mais c'est parce que Ça va mal, c'est pas tant la chanson que j'aime que le principe même, puis la vidéo comme telle. C'est celle dont je suis peut-être le plus fier, là, tu sais. Celle-là, puis Maman écrit.
Ok.
Ouais.
Et il y a la joke dans C'est ma fête avec le chapeau pour l'anniversaire.
Ouais.
Mettez-moi un chapeau pointu, achetez-moi un gâteau.
Ouais.
J'adore.
Tout simplement, c'est très simple.
J'aime bien.
Ouais, c'est simple.
C'est le rythme dans la chanson, la petite vide.
J'aime c'est gentil. Ça. Ouais, c'est parce que c'est vraiment une joke de ça sonne drôle de dire ça. Parce que c'est pas tant. Ouais, c'est ça, exact.
Et j'aime bien la bio sur Spotify. Donc tu es Pierre-Yves Roy-Desmarais, pionnière du country polonais, lauréate de 16 Grammy.
Ouais.
C'est déjà, ça donne déjà l'idée sur qu'est-ce qu'il y a dans l'album. J'aime beaucoup. Est-ce que à un moment t'as eu peur de t'enfermer dans ce rôle du gars qui fait des chansons qui sont un peu niaiseuses avec une musique catchy? Parce que les émissions te demandaient de faire des chansons, t'en as fait pour Halloween, t'en as fait pour d'autres trucs.
Ouais.
Est-ce que t'avais peur que ça t'enferme dans un truc? Sur scène, tu fais des chansons plus élaborées.
Ouais.
Et plus construite.
Exact.
Je dis ça sans vouloir décrire les chansons parce que elles sont très
exactement
bonnes.
Ça. Ouais. Peur, je sais pas, mais j'en étais conscient en tout cas. Je voulais pas que ça devienne ça, tu sais. Fait que je calculais vraiment là, tu sais. Puis à un certain point même où je refusais tellement beaucoup de gigs de chansons que j'étais comme je suis cave là. Je suis en train de passer à côté de ce que le monde veut vraiment dans le fond. Mon gérant était comme non, en fait c'est que les gens, c'est les producteurs qui te demandent ça. C'est juste du monde qui ont pas d'imagination. Fait qu'ils veulent que tu fasses ce qu'ils t'ont vu faire déjà. Fait que si t'arrêtes de faire ça pis tu n'as faire d'autres choses, ils vont juste te demander l'autre affaire, tu sais. Fait que stresse pas avec ça. Pis il avait 100% raison, tu sais. Fait que après un an de refuser toutes les chansons, mais là on me demande plus ça, tu sais. Les gens se demandent plus, ah quand est-ce que tu sors la prochaine parce que je fais plein d'autres affaires. Fait que tant mieux, tu sais. Tant mieux si c'est plus ça parce que sinon ce serait vite tanné, je pense.
Et quand est-ce que tu sors la prochaine?
Longtemps, je répondais « Ah, mais à un moment donné, je travaille là-dessus, mais je travaille pas du tout là-dessus. » Okay. Ouais.
Ça marche. Merci de me donner la réponse juste, honnête. Ouais. Mais grâce à ces chansons, tu t'es fait découvrir par énormément de monde.
Ouais.
Les vidéos sont quand même devenues vachement virales. Tellement virales que c'est arrivé jusqu'à nous.
Europe, ce qui est quand même un bon signe, parce que l'humour québécois, pour moi qui suis fan d'humour québécois, faut que c'est une recherche active, tu vois, pour que ça arrive jusqu'à chez nous. Mais ça, c'est à... les chansons sont arrivées. Genre, ça va mal, je le voyais partager sur Facebook, sur les réseaux.
C'est cool,
ouais, vraiment. Et grâce à cette chanson, ben, Simon Olivier Fecteau, qui réalise le Bye Bye, donc l'émission la plus regardée au Québec pour les Européens qui nous écoutent, il te contacte en DM sur Instagram pour que tu refasses une version de Ça va mal pour le Bye Bye.
Ouais.
Au final, ça devient une chanson à part entière qui devient la chanson sur le coronavirus.
Il n'y a pas vraiment de titre, en fait, je l'appelais 2020.
Hein, 2020.
Ouais.
Quelle bonne année pour être un virus.
Exact.
Qui, pareil, est arrivé jusqu'en Europe. Cette chanson-là, alors que le Bye Bye, moi je n'avais jamais rien vu arriver jusqu'à moi. Je connaissais le Bye Bye, mais la chanson est géniale, le costume, c'est catchy, tu l'as en tête, là je l'ai en tête.
Ouais.
En faisant mes recherches sur toi, j'ai tout en tête. Je suis un peu tanné de toi.
Je comprends, je suis désolé pour ça.
Il n'y a pas de problème. Mais quel impact elle a eu cette chanson? Donc le numéro d'ouverture pour le Bye Bye, et en plus toi qui écoutais le Bye Bye étant petit...
Ouais.
Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi et sur ta carrière aussi?
Ça a eu déjà un énorme impact parce que à ce moment-là, c'est dur pour moi de reculer dans le temps là, parce que donc, de 2020 à aujourd'hui, c'est juste un gros flou là, tu sais. Il y avait déjà un intérêt pour déjà du public parce que j'essayais de commencer à roder le show, fait que je louais des salles, puis là, finalement les salles de spectacle se fermaient, puis là, ils rouvraient puis ça. Fait que je sentais un engouement d'un public qui voulait venir me voir sur scène à cause des chansons, à cause de sur internet, ça roulait déjà, tu sais. Mais le Bye Bye, c'est comme si ça crée une association dans la tête du grand public. Donc, ok, c'est pas un YouTuber, c'est comme c'est un gars qui fait ça pour vrai, tu sais, comme c'est un comique pour vrai, tu sais. Fait que c'est comme si ça a mis un genre d'étampe officielle sur juste dans l'esprit des gens. Fait que là, je le voyais tout de suite, là, quand je louais plus mes salles. J'allais vraiment dans les vrais diffuseurs de spectacle. J'allais dans les vraies salles de spectacle. Puis ça se vendait super rapidement parce que c'est ce genre de public-là qui se déplace dans les salles de spectacle. Fait que là, je comprenais, ok, là, je suis comme devenu quelqu'un de sérieux dans l'esprit de ces gens-là. Fait que c'est comme
si t'avais monté une catégorie dans les humoristes. T'es passé à... Il est humoriste.
C'est un vrai humoriste. C'est un peu ça.
C'est ça.
C'est aussi niaiseux que ça peut se paraître. C'est vraiment ça que ça a créé dans l'esprit des gens. Juste parce que t'écoutes TikTok, mettons. Là, t'as autant des vidéos d'humoristes professionnels que des kidam qui font des sketchs comiques. Fait que, et où la ligne entre les deux, tu le sais pas. Fait que, quand t'écoutes la TV, t'es pas quelqu'un qui suit les humoristes québécois. T'as aucune idée que j'ai fait ZooFest puis Rose Battle. T'as aucune idée de ça. Mais tu m'as vu deux, trois fois sur Internet, puis là tu me vois au Bye Bye, puis tu vois, ok, c'est comme... un vrai humoriste. T'sais. Fait que c'est un peu ça que ça a créé dans l'esprit des gens. J'ai l'impression, en tout cas.
Et tu décides de ne pas dire à tes parents que tu participes au Bye Bye pour voir leur réaction au moment où ils le voient à la télévision. Ton père est ému. Ta mère est en tabarnak parce que tu lui as pas dit.
C'est parce que je peux pas être avec eux. Ça fait que la marche, ça marche pas, la surprise. Je suis pas avec eux. Fait qu'ils ont juste l'impression que je leur ai rien dit, tu sais, parce que je basais cette idée-là sur le fait que Phil Roy avait fait ça, il faisait la première partie de Louis-José Hood, fait que là, il avait amené sa mère au show de Louis-José Hood, puis là, avant que le show commence, il fait semblant qu'il va aux toilettes, puis finalement, c'est lui qui rentre sur scène, c'est malade, tu fais « Ah, c'ti, il m'a fait une surprise ». Mais là, je suis pas avec ma mère, on est en pandémie, on peut pas être avec nos parents, fait que ma mère regarde le Bye Bye, puis elle voit son fils, puis il a pas dit qu'il était là, c'est pas genre « Surprise !» C'est genre « Ouais, elle me texte, qu'est-ce que c'est, tabarnak, comment ça tu m'as pas dit ?» Fait que, c'est ça.
Je trouvais ça assez marrant de se dire que tu as fait le Bye Bye, l'émission que tu regardais quand t'étais petit.
Ouais, vraiment.
Je crois que je m'identifie beaucoup dans ce truc de waouh, il a fait. Je suis jaloux en fait. Voilà.
Ah, ouais. Mais moi-même, je suis jaloux de moi-même.
Après, en 2021, t'annonces un spectacle qui s'appelle Dans des grosses crises de salles.
Ouais.
Parce que tu peux faire ton spectacle que dans des grandes salles avec la distanciation.
Exact.
Distanciation. Et tout ça, en 2021, tu animes ton premier gala Juste pour rire et ton premier gala Comédia, la même année.
C'est un an de différence. C'était 2021 Comédia, 2022 Juste pour rire.
Pardon. Tu décides de faire, pour le gala Comédia, un gala en deux parties. Une première partie avec un gala d'humour sous forme d'une comédie musicale avec une entrée magnifique en chanson, avec danseurs, chorégraphie, des vedettes... Bref, toutes des choses qui sont impossibles à roder en comédie club, déjà.
Exactement.
Une deuxième partie sur la thématique des rêves, tout ça en respectant les mesures sanitaires. Pourquoi se mettre autant de difficultés pour un show que tu fais une fois?
Justement parce que je le fais une fois, puis il y a un budget, on est à la télé déjà. Puis je voulais pas faire des affaires que je pourrais faire dans mon show, tu sais. Parce que on dirait que je voulais pas investir ma créativité dans le stand-up pour des affaires dont je vais être vraiment fier, vraiment content, que j'aurais pu faire dans mon show, puis avoir le meilleur show possible, qui inclut mes numéros préférés. Là, je me privais de ça parce que je le faisais à télé, puis j'avais plus le droit de le faire dans mon show. T'sais. Parce que quand tu le fais à télé, ils veulent les droits d'exclusivité.
Puis le public l'a vu aussi.
Ouais.
T'as pas toujours envie de le
voir. Oh non, exact. Fait que j'étais comme, je veux pas brûler quelque chose que j'aurais pu faire dans ma tournée à télé. Fait que je vais faire quelque chose que je peux pas faire nulle part ailleurs. Fait que c'est-à-dire une comédie musicale avec du budget, puis où on va parler des gars-là. T'sais. Fait que c'est comme une comédie musicale méta où. Une comédie musicale à propos des galas dans un gala. Fait que c'était ça l'idée.
Mais j'ai beaucoup aimé. C'est gentil. Je l'ai téléchargé illégalement.
Yes! That's it!
J'ai beaucoup aimé, comme la plupart des galas que j'ai regardés, puisqu'on ne les a pas diffusés par chez nous.
Exact, donc, c'est ça.
Voilà, je couperai cette partie.
Non, regarde-la, s'il te plaît.
Il y a une autre chanson qui marque également ton année 2021, c'est celle que tu fais sur les fans des Canadiens.
Oui, c'est vrai.
Tu fais une chanson au Centre Bell.
Alors que le Centre Bell, à ce moment-là, était fermé, hein, depuis, parce qu'il n'y avait pas le droit aux spectateurs. Mais ouais,
c'est fou. Sur l'équipe des Canadiens, ce qui fait que Jeff Molson, le directeur, président et chef de direction des Canadiens de Montréal, a ta vidéo sur son téléphone.
Ouais, c'est lui qui a approuvé.
C'est malade.
Ils m'ont écrit un moment donné parce que je fais un finger à Youpi qui est la mascotte. Puis ils m'ont écrit un courriel. Jeff aimerait qu'on enlève, qu'on floute le finger. Fait que j'étais comme, c'est lui. Mais il check la vidéo. Puis il est comme, il comprend rien parce que c'est en français. Puis il est comme, ouais, faudrait juste rendre flou le fuck you. Fait que c'est super drôle.
En 2021, tu participes à nouveau au Bye Bye et fais à nouveau le numéro d'entrée avec la chanson 2021. Cette année, c'est la chanson 2022, mais là où tu fais également des sketchs. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire 2023?
Non. Non. Je sais pas. En fait, j'avais même pas écrit d'avance la tune de 2022 parce que c'était même pas une question. C'était comment... On a fait le tour, tu sais, les deux tonnes de 2020 et 2021, c'était, j'étais le virus, ouais. Tu sais, je jouais le virus. Puis là, le virus était vraiment moins présent dans nos vies, parce qu'il faut le dire, le Bye Bye, c'est une revue de l'année, en fait.
Oui.
C'est important de le spécifier. Fait que ça avait pas rapport de parler du virus tant, donc de ramener le personnage. Fait que quand on était dans l'écriture du Bye Bye, c'était même pas une question, là, tu sais. Jusqu'à un certain point où il était comme, ouais, on a pas de numéro d'ouverture, j'attendrais-tu d'écrire une autre toune? Fait que je faisais, ok. Fait que là, on a trouvé un autre angle où je suis en moi-même, puis là, je chante d'autres choses. Mais la toune s'appelle quand même 2022.
Qu'est-ce que ça t'a fait de, cette fois-ci, d'être vraiment un des comédiens du Bye Bye, de participer au sketch, de pouvoir jouer plein de rôles, de pouvoir imiter Stéphane Rousseau et Jay du Temple?
Ouais.
Parce que tu aimes beaucoup imiter Jay du Temple. J'avais déjà déguisé en Jay du Temple pour...
Oui, c'est vrai. Mais c'était même pas une imitation. En plus, ça se...
C'était plus un déguisement.
C'était comme un sketch à... Justement, on faisait une revue de l'année à VRAC. Donc, avec beaucoup moins de budget. Donc, j'avais joué Jay, mais c'était pas une imitation. Attends. Mais là, j'ai dû travailler là-dessus. Puis, j'ai adoré ça, faire des imitations. Jouer les sketchs, évidemment, comme je te le dis. Jouer des sketchs, j'ai toujours aimé ça, faire des sketchs. Puis le Bye Bye, c'est la plus grosse tribune. C'est l'émission la plus écoutée de l'histoire du Québec. Fait que de le faire avec le plus gros budget dans la plus grosse tribune, c'est malade. Tu sais, de faire des sketchs, je mettre des perruques. Ajouter à ça l'aspect imitation qui faisait pas tant partie de ma patente. Là, j'imite jamais vraiment du monde. J'étais capable d'imiter Stéphane Rousseau juste parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Fait que son personnage de Madame Jigger, qui est super coloré, c'est facile à imiter. Là. Tu sais, c'est un gros personnage. Mais Jay, c'est genre, OK, mais c'est un... T'es un gars, là, c'est un vrai gars, là, c'est pas un personnage, là, tu sais, fait que c'est tough, là, de l'imiter. Moi, je trouve ça vraiment dur. Fait qu'il, tu sais, il métamorphose, il te met des prothèses pour que tu y ressembles, tout ça. Ah ouais, vraiment. Ouais. Fait que là, je me suis regardé dans le miroir avec le look de Jay, puis là, ça faisait déjà une couple de jours que j'écoutais des vidéos d'Occupation Double, puis j'écoutais Jay parler, puis j'essayais de pogner ça. Pis c'était tough, mais quand je me suis vu avec avec le costume de Jay, j'ai pogné les petits twists pis tout ça, fait que...
Ben, j'ai beaucoup aimé.
C'est gentil.
Quand tu arrives, t'as pas besoin de dire... Tu vois, quand c'est une mauvaise imitation, tu fais « Bonjour, c'est Jay du Temple ».
Ouais.
Là, t'es même pas obligé de le dire,
ouais.
Et là, c'est bon signe.
Ouais.
C'est les mauvais imitateurs qui, t'sais, vont dire le nom, ils font « Ah oui, c'est ça qui l'imite ». Je disais bien que ça ressemble à quelque chose, mais...
Mais là, en plus, il m'avait déguisé en lui.
C'était oui. Ouais, c'était vraiment bon.
Ouais, c'est gentil.
En 2022, tu obtiens 3 Olivier, capsule ou sketch web humoristique de l'année avec Maman écrit. découvert de l'année, numéro de l'année avec Y'a Personne, qui est pareil, encore une fois, un numéro qui s'est beaucoup partagé entre les humoristes. Parce que, bon, après, ça c'est aussi moi, dès qu'il y a un humoriste québécois qui fait un sketch, on me l'envoie. C'est parce que tout le monde sait que je suis fan de ça.
Ouais.
Mais je sais que les humoristes en Belgique, en France, ont beaucoup aimé ce sketch parce que t'as trouvé l'angle, je pense que les humoristes ont dit, c'est pas moi qui ai eu cette idée de faire un sketch sur le fait qu'il y a personne dans la salle et que personne ne dit rien. Je trouvais ce numéro génial.
C'est super gentil, merci.
J'ai l'occasion de te le dire, donc j'en profite. En 2022, t'as animé Un gala juste pour rire. En fait, je l'avais noté, je suis vraiment pas bon.
Non, non, t'es bon, tu l'avais noté.
J'ai adoré ton numéro d'ouverture avec la chanson Vedette de catégorie A,
ouais.
Où tu te moques des vedettes. Donc ouais. ça me fait rire. Surtout la partie avec Mathieu Pepper qui est vraiment
ouais,
drôle.
Vois, hein.
La petite phrase sur Big Brother, vraiment drôle aussi.
Merci.
J'ai beaucoup aimé. Là, c'est la partie où je te fais juste des compliments sur la
fin. C'est super gentil, c'est bon, j'aime ça.
J'ai deux questions que je pose généralement à la fin de l'épisode, parce que je pense que je suis revenu sur une bonne majorité de
ouais,
ce
absolument.
Que tu as fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour?
Ce que j'aime le plus, c'est tout, tu sais. C'est dur. Ce que j'aime le moins, rien. Comme j'aime tout. J'adore ça. Ce que j'aime le moins de l'humour en général, c'est...
Même du métier.
Du métier, ben c'est... Il y a encore des... Mais c'est que ça a les qualités de ses défauts, tu sais. C'est-à-dire qu'on est chanceux au Québec d'avoir... une aussi que le public aime autant ces humoristes. Ça fait en sorte qu'il y a eu pendant longtemps beaucoup d'argent dans le milieu de l'humour, ce qui fait qu'il y a beaucoup de grosses boîtes, une machine, il y a beaucoup de patterns de manières de fonctionner qui sont désuètes aujourd'hui parce que c'était des grosses machines à ce moment-là. T'sais. Fait que c'est ce que je déplore le plus, c'est que il y a beaucoup de diversité au niveau de la proposition humoristique, mais au niveau de la structure, le chemin de le one-man show, le gala, c'est encore très figé dans le temps, je trouve. Fait que c'est ce que j'aime le moins, je dirais. Mais ce que j'aime le plus, c'est être sur scène, tu sais. C'est vraiment ça. Mon show, j'ai aucun plus gros bonheur dans la vie que mon show. Ben, tu sais, je veux dire... dans ma vie professionnelle, là, évidemment, là, dans ma vie personnelle, j'ai besoin d'avoir une vie équilibrée, j'ai vu des beaux moments, j'ai une blonde que j'aime, je suis chanceux, t'sais. Mais sur scène, il n'y a rien comme ça. T'sais.
Et qu'est-ce qu'on peut te aider pour la suite de ta carrière?
Une stabilité émotionnelle.
Okay.
Les montagnes russes, de la pression, de tout ça, je m'en rendais pas compte quand j'étais dedans. Puis là, maintenant, j'ai à peine de recul, mais déjà, je me rends compte, tu sais, à quel point c'était trop intense, tu sais, la pression que je me mettais dans la première année du one-man show, en tout cas, tu sais. C'était beaucoup en même temps, le bye-bye, les oliviers, le show, les critiques, tout ça, c'était beaucoup d'affaires à assimiler en même temps. Puis je pense que je commence à trouver une genre de stabilité, puis si je peux rester level-headed, comme ils disent en anglais... puis de pouvoir surfer la vague sans me dire un jour ben il faut que j'arrête l'humour parce que c'est en train de me gruger, c'est la meilleure chose, donc faut que
okay.
je continue d'avoir du plaisir à le faire en fait.
Ben je te le souhaite,
c'est gentil, merci,
avec plaisir. Est-ce que je fais le name dropping rapidement ou...
ça prend combien de temps ça? 5 minutes?
Ça dépend si tu réponds vite ou pas.
ah ouais
okay. Alors on va terminer sur le name dropping, donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste par catégorie. Tu peux partir sur n'importe quel humoriste, homme, femme, québécois, yes. français, suisse, américain, peu importe.
Parfait.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
Oh! Hey! Ben, Daniel Grenier.
Ok, oui.
Tu vois très bien c'est qui.
Je vois très bien c'est qui, oui.
Frère de mon gérant, d'ailleurs, Michel.
Aussi. Ancien membre des Chicken Swell.
Exactement. Moi, les Chicken Swell, c'est des idoles, en fait. Là. Quand je suis allé voir leur show, je pense, 2 ou 3 fois live, puis j'ai acheté le DVD, puis je l'ai écouté des dizaines de fois. Ils faisaient des sketchs aussi à la télé. Il y avait une émission de télé à sketch, eux autres. Fait ça couvre tout ce que j'aimais. Ils ont fait des albums musicaux, tu sais, c'est vraiment tout ce que j'aimais, mais c'est un groupe, tu sais, fait que c'est un groupe d'humoristes absurdes que j'ai absolument adoré. Puis à peu près à la même époque où j'ai rencontré David quand je faisais les chroniques au Medley Simple Mat, Daniel était venu faire un numéro en solo parce qu'il est maintenant il œuvre en solo. Puis il a été tellement généreux, il m'a parlé pendant des heures, il est resté, le show était fini, puis j'ai demandé de me raconter l'histoire des Chicken Swell, puis ça lui faisait plaisir, j'étais un petit tout nu là, j'avais genre 5 shows dans le corps, puis j'avais les yeux grands ouverts, puis il me racontait toute l'histoire des Chicken Swell, puis il est tellement fin, puis aujourd'hui, ben, je le croise tout le temps, puis c'est lui qui a fait la mise en scène de mon gala comédia, puis de mon gala
juste pour rire. Il joue le rôle du producteur dans...
Exact, il joue dedans en plus.
Fait la saucisse à la bouche.
Ouais, fait que c'est un monsieur extraordinairement généreux, fin comme pas un, super drôle, fait que c'est vraiment lui.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Ben, en ce moment, l'humoriste qui m'inspire le plus, c'est définitivement James A. Caster.
Oh, wow!
Peut-être, overall, c'est lui qui m'a inspiré le plus. Je l'aime viscéralement. Tu sais, comme quand j'écoute ses affaires, je punch d'un coussin en me disant « c'est ça, l'humour! » C'est parce que c'est drôle, mais c'est bon au point où ça me fait vivre des affaires. Je suis comme « c'est tellement bon! » La structure, comme écouter le répertoire de A à Z d'une shot, c'est une expérience malade parce que les choses répondent. Il y a un de mes bits préférés, tu sais, puis qui est devenu un des bits préférés peut-être à ma cinquième écoute de répertoire, et qui est le bit où il y a un canard en bois puis qui parle du fait que ça sert d'appât au chasseur. En fait, c'est comme un canard qu'il met sur l'eau, puis là il joue le canard qui va y parler en pensant que c'est un vrai canard, puis c'est long, puis le punch out de cette affaire là c'est le meilleur punch out au monde, c'est vraiment le meilleur.
Mais James Castor, c'est exactement l'humoriste, comme on parlait tout à l'heure, de soit tu tripes à fond, ouais, soit tu ne comprends pas du tout.
Ben, probablement, tu sais. Mais puisque, en fait, je trouve que ça demeure très grand public, tu sais, son affaire, parce qu'il y a beaucoup de bits d'observation, tu sais, la joke.
Il y a des parties qui. Moi, je. Ouais. Qui lâche, ben, je sais que si t'accroches, ouais, pas, tu lâches deux minutes, c'est fini.
Probablement, ouais. Ouais. Oh, ouais. Puis son show Cold Lasagne, Hate Myself, 1999, ça c'est plus chargé émotivement, il y a beaucoup d'introspection là-dedans, fait que c'est comme une autre approche. Peut-être plus accessible, entre guillemets, parce que c'est moins conceptuel, mm-hmm, mais ça demeure chargé. Mais moi j'aime ça, j'adore ça. Le côté. Il a donné vie à des bits d'observation. En utilisant la structure d'un show, d'un spectacle en général, pas juste un spectacle d'humour, de manière vraiment brillante. Fait que c'est vraiment mon préféré et ma plus grande source d'inspiration, je te dirais.
L'humoriste qui pour toi joue le mieux, vraiment qui joue le mieux ses jokes, sur scène.
C'est une bonne question. Tabarnouche, c'est dur. C'est parce que ça dépend aussi de leur énergie, tu sais. Je dirais, tu sais, Julio Torres, il y a un de mes specials préférés qui s'appelle My Favorite Shapes.
Je l'ai pas vu.
C'est très simple. C'est il présente ses formes préférées. Déjà, okay. C'est crampant. Fait qu'au début, c'est des cercles. Il fait des jokes de cercles, des jokes de triangles.
OK.
C'est malade.
Ah, mais tu m'as convaincu d'aller regarder, c'est sûr.
Ah, c'est bon. Il faut absolument que tu vois ça. C'est après les specials de James, c'est définitivement mon special préféré du mot... C'est joué, très simple. Il y a une énergie qui est parfaite pour les jokes qu'il fait, tu sais. Fait que des fois, de pas le jouer aussi physique que ce que je fais, mettons, ça veut pas dire que tu joues pas bien. Ça veut dire que tu as l'énergie qui va avec. Fait que lui, je trouve qu'il joue très bien ça, cette énergie-là. Beaucoup de monde, Simon Gouache joue extrêmement bien.
Oui.
Et c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est juste, oui, que vite de même, j'ai le goût de te dire ça.
L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Vraiment en termes d'écriture.
J'ai goût de te dire Virginie Fortin.
Oh oui.
Adib, je trouve qu'il écrit super bien.
Oui. Deux anciens invités du podcast.
Ouais, mais...
Je suis ma propre pieu.
Plus humoriste. Forme d'âme, vraiment. Qui écrivent le mieux, ben je reviendrai sur James A. Caster, c'est certain. Simon Gouache écrit très bien.
Ok.
Ouais, vite de même, c'est sûr que je te dis.
Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit tu le connaissais pas et tu l'as découvert et ça t'a surpris, ou quelqu'un que tu l'as plus vu depuis un moment. Et tu fais « Wow, il est venu super fort, il m'a impressionné. »
À part Régis Canon.
Ah, ça, c'est gentil. Je vais juste garder ça.
Qui m'a surpris, ben, hey, crime, c'est plate, j'en ai comme pas vite de même. T'as peu.
Il peut garder juste Régis Canon, moi, ça me...
Ok, je vais juste Régis Canon. Ah ouais, c'est de loin, là. C'est le seul, je suis pas capable de penser à un autre nom, tellement il occupe mon esprit.
Premier degré, ça me fait plaisir. Alors que je sais que c'est une chose.
C'est malade. Non, c'est vrai.
Ça s'était bien passé.
Vraiment.
Merci.
Absolument.
Je vais te demander de choisir entre deux humoristes.
Ah non.
Tu n'as pas beaucoup de temps, donc tu vas devoir choisir un peu rapidement. Le but, c'est pas de dire qu'un humoriste est moins drôle que l'autre, c'est juste de voir qu'est-ce qui te fait, toi, rire un peu plus.
Ok.
Là, on est en train d'enregistrer chez mon pote Maxime, qui ça fait 2 heures qu'il est enfermé dans une chambre et donc il est aux toilettes. Je vais te demander de choisir donc entre deux humoristes, lequel te fait le plus rire. C'est pas celui que tu préfères, c'est celui qui te fait le plus rire.
J'aime pas ton jeu, mais vas-y.
C'est parti. Entre Bo Burnham et Marc Maron.
Me fait le plus rire.
Rire.
Rire, rire. Dernièrement, je vais être obligé de dire Marc Maron.
Entre Louis-José Houd et les Denis Drolet.
Ah mon dieu, mais c'est tough. Non, c'est impossible. C'est parce que les deux me font rire de manière complètement différente. Ben, je peux pas choisir.
Ok. Ça marche. C'est parce que d'habitude, j'insisterai, mais là, on n'a pas le temps. Okay, entre Fanny Ruet et Virginie Fortin.
Ben là, voyons donc. C'est pas fin.
C'est pire après, t'inquiète pas.
C'est. Mais. Parce que là, Fanny, je l'ai vu très peu souvent sur scène en plus. Tu sais, je l'ai vu au Kings.
Elle serait pas vexée que tu dises Virginie.
C'était super bon. Ben, j'ai pas le choix de dire Virginie. J'ai vu son show, il était écœurant, mais tu sais, Fanny, je l'ai vu une fois faire un 10 minutes. C'était super bon aussi, mais là, c'est pas le même échantillon, tu sais.
Entre Romane Frayssinet et Blanche Gardin.
C'est parce que Romane, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Mais Blanche, me faire rire du ventre, elle me le fait. Fait que je dirais Blanche.
Entre Mike Ward et François Bellefeuille.
Super dur aussi, tabarnouche. Mais c'est parce que les deux, je les adore. Les deux sont très drôles. Les deux me font rire. Celui qui m'a donné probablement le plus de fou rire, c'est peut-être plus Mike, en termes de rire, là. Mais c'est parce que François, ça veut pas dire qu'il est moins bon. Ça se fait pas, ton affaire.
C'est vraiment le pire jeu à faire quand t'as pas le temps.
Ah, exact.
Désolé.
Mais non, c'est parfait.
Entre Arnaud Soli et Alexandre Forêt.
Mais là, voyons, mes amis. Non, non, je peux pas choisir. C'est mes amis.
Bon, ben, Brian Piton et Mathieu Pepper.
Mathieu Pepper, il est pas drôle. Fait que je vais dire Brian Piton.
Voilà.
J'ai cette dynamique-là avec Pepper où je peux me permettre de dire qu'il est pas drôle. Fait que je vais dire Brian Piton.
Et allez, je vais te laisser un dernier choix, mais tu vas pas choisir, donc. Entre Sam Boisvert et David Bocage.
Ben, Sam, il a pas de joke, tu sais. Sam, il fait pas des jokes.
Ok.
T'sais, Sam, il a pas de joke.
Drôle quand même.
Ah ouais, non, il fait pas de joke. Là, c'est parce qu'on a un running gag où on dit que Sam, il y a pas de joke. À chaque fois qu'il monte sur scène, je fais, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je sais pas, man, j'ai pas de joke.
J'étais là, mais,
moi, j'ai dit, mais oui, non, c'est parce que Sam, on a fait, tu sais, des shows ensemble. En fait, tu sais, notre premier show Zoufest, notre 30-30, quand on était à l'école de l'humour, on l'avait fait ensemble. Mm-hmm. On a fait un show qui s'appelait Sold Out, qui était pas Sold Out. Ensemble, on a fait un show qui s'appelle Frères et Sœurs, un qui s'appelle Agrandisse la famille. On a fait beaucoup de shows ensemble. Puis le premier show qu'on avait fait au Zoufest, il ouvrait sur un sketch. Dans lequel il y avait Michel Grenier qui jouait notre producteur.
Ok.
Puis là, on le rencontrait, mais on était comme, hey, désolé, Michel, on n'a pas de joke. Puis il était comme, de quoi, vous n'avez pas de joke? Mais comme, on n'a pas de joke, tu sais. Puis là, fait que là c'était un sketch où on essayait de brainstormer des jokes. Fait qu'on était devant un tableau, on était comme, ok, une joke, ok. Donne-moi un sujet. Les singes. C'est super drôle. C'est parfait. Les singes. Bon, là. Non, mais c'est pas une joke. Ouais, non, mais c'est drôle. Fait qu'on faisait beaucoup ça de, ah, j'ai de quoi de vraiment drôle. Mais c'est pas vraiment une joke. C'est plus comme une pub. C'est pas, j'ai vu une pub, je trouvais ça vraiment drôle, mais c'est pas une joke. fait qu'on fait souvent cette joke-là. Fait que, vu qu'il y a pas de joke, je vais choisir David Bocage.
Et la question que je pose à tous les invités pour la dernière question, qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode?
James Acaster.
Le message est lancé. James, si tu écoutes, avec grand plaisir. J'ai fait un épisode en anglais, donc pourquoi pas.
C'est vrai?
Ouais, j'en ai fait un avec une humoriste irlandaise qui s'appelle Niamh Maroney.
Okay.
Donc pourquoi pas. Plus tard, d'en faire d'autres en anglais, d'étendre le podcast au monde entier.
Ouais.
Et pourquoi pas? Mais ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu m'avais donné jusque 17h. Il est 17h40. Je suis désolé.
Je mets
tous les humoristes à dos. C'est comme ça que j'ai anéanti ma carrière possible à l'avenir. Les contacts, je les fais et après, on me déteste.
Voilà. Mais là, la carrière en anglais, hein. Tu commences à faire des podcasts en anglais, c'est ta seule issue.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.